Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Un grand bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après quelques jours de congé, me voilà de retour. Ravi de vous retrouver comme chaque soir, du lundi au jeudi, c'était Tech & Co sur BFM Business, vos deux heures de tech, rien n'a changé. Avec au sommaire en ce lundi 21 novembre, plein de bonnes choses, vous verrez déjà un robot sur le plateau de Tech & Co, ça tombe bien, il s'appelle Plateau, ça ne s'écrit pas de la même manière, mais vous verrez, c'est un robot qui est un peu un serveur dans les bars, dans les restaurants, les collectivités, on en parlera tout à l'heure avec Aldébaran. Est-ce que l'IA va remplacer les artistes? On posera la question à quelqu'un que vous connaissez sans doute très très bien, qui sera mon invité tout à l'heure. Et puis notre débrief de la tech à partir de 21h. Vous le savez, on reviendra sur les derniers gros sujets de ces dernières heures et notamment les derniers rebondissements concernant Twitter, mais pas que, bien sûr. Je vous rappelle que Tech & Co, c'est tous les soirs à la radio, à la télé, 20h-22h. Juste après, sur tous vos écrans, audio, vidéo, vous faites comme vous voulez. Et dès 22h, Tech & Co est rediffusé sur la chaîne, justement, Tech & Co, disponible sur toutes les box opérateurs, votre nouvelle chaîne dédiée à la tech. Merci d'être là encore une fois et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actu tech de ce jour, pour débuter, c'est avec Frédéric Simotel. On a inversé les rôles. Salut Fred.
Salut, enfin,
inversé,
François.
Pas tout à fait, ouais, puisque ben voilà, tu étais aux commandes de Tech & Co, tout s'est bien passé.
Légitime.
Voilà. Ravi de te retrouver, Fred, journaliste à BFM Business. Alors, dans l'actualité, on va revenir sur l'affaire Theranos, alors qui a été évidemment très médiatisée. On en a beaucoup parlé dans Tech & Co. Il y a même eu une série que je vous conseille sur Disney+, qui raconte cette histoire incroyable d'Elizabeth Holmes, qui avait inventé une espèce de, grâce à une goutte de sang, d'avoir un laboratoire qui permettait de détecter en fait toutes les maladies qu'on pourrait avoir par le sang.
La société s'appelait Theranos, a valorisé 9 milliards de dollars. Il y a eu près de 900 millions de dollars qui ont été investis avec des gens comme Rupert Murdoch, comme Henry Kissinger qui l'avait conseillé. Enfin, vraiment, on l'a considéré comme la Steve Jobs. Hein. On l'a comparé à Steve Jobs. Elle sortait de Stanford. Elle avait monté sa boîte à 19 ans. On se disait, ça y est, c'est là. Et comme tu dis, elle avait trouvé, soi-disant, une technologie qui permettait avec une goutte de sang. Donc imaginez, on avait un résultat de tests sanguins. Donc, voilà,
oui, donc petite révolution.
Et puis, patatras, c'était une fraude financière, c'était une fraude technologique.
Ça n'existait pas.
Elle avait piraté des serveurs qui sortaient des faux résultats. Donc elle a été jugée coupable le 4 janvier dernier. Et là, le verdict est tombé par le juge qui l'a jugé, avec un jury, bien entendu. 11 ans et demi de prison. 11 ans et demi de prison. Alors, les Américains.
C'est sévère, hein, quand même. Hein.
Oui, c'est très, très. C'est assez sévère. Alors, on s'attendait à 20 ans de prison. Là, c'est 11 ans et demi de prison. Elle a 14 jours pour faire appel. Et si elle ne fait pas appel, en avril 2023, elle doit se présenter devant la prison pour effectuer sa peine. On estime, parce qu'on n'est pas encore dans la pénalité financière. La pénalité financière pourrait atteindre plus de 800 millions de dollars, hein, parce qu'elle doit rembourser les investisseurs notamment.
Donc, il serait en plus de sa peine de prison.
Oui, en plus de sa peine de prison. Alors certains aimeraient que sa peine de prison soit commuée, alors avec une grosse pénalité, avec plutôt la prison chez elle, parce qu'on estime qu'elle est brillante, qu'elle pourra encore apporter beaucoup. Puis la juge, elle dit, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'est vrai qu'elle était, c'est le juge qui a dit, une personne décente, réfléchie, pas de compassion, pleine de compassion. Elle dit c'est une personne qui a été intoxiquée par sa célébrité. Et c'est vrai que tu citer cette série sur Disney+. Regardez la série, vous allez comprendre, elle est embarquée
elle est dépassée par son personnage.
Ça n'empêche qu'il faut quand même garder un Mark Zuckerberg, à moins qu'un jour on découvre quelque chose, mais enfin voilà, il s'est pas laissé embarquer, Steve Jobs non plus. Elle a pas mal remis la faute sur son partenaire, compagnon, amant, Sonny Balwani, qui était de 20 ans son aîné, qu'elle a accusé que c'était lui qui avait monté toute cette fraude, qu'elle avait suivi, elle avait été embarquée dans tout ce cheminement. Elle l'a même accusé d'abus sexuels. Hein. C'est allé assez loin. Et donc, alors ce qui est étrange, toujours avec les dates, c'est qu'elle avait pris la parole pendant son procès il y a tout juste un an. Vraiment, on était aux alentours du 23
donc
novembre.
Donc, il fallait attendre
2021.
Un an pour qu'on ait un verdict.
Voilà, il a fallu un an. Alors, on a eu le jugement, donc le 4 janvier, je l'ai dit. Et elle avait réussi. Alors, il faut quand même voir que tout a été dénoncé aussi par un journaliste qui s'appelle John Carreyrou, qui était un journaliste franco-américain, qui avait sorti un article dans le Wall Street Journal. Il en a fait un ouvrage après qui s'appelle Bad Blood, dont s'est inspiré d'ailleurs la série. Et on voit quand même un Rupert Murdoch plus l'ancien patron de la Wells Fargo. Ils ont quand même perdu 120 millions de dollars. Hein, donc, et puis elle avait fait croire qu'elle allait signer avec le département de l'armée américaine. Enfin voilà, il y avait vraiment la fraude dans son excès. Les procureurs, je termine par ça, aimeraient quand même qu'elle fasse sa peine parce qu'ils trouvent qu'il faut qu'on soit exemplaire pour qu'il n'y ait pas d'autres exemples comme celui-ci au travers de Silicon Valley, qu'on arrête, voilà, qu'il n'y ait pas d'autres escroqueries. Bon, on n'en a pas encore
connu. Oui, que ça serve un peu d'avertissement, en quelque sorte.
On ne l'a pas connu de cette ampleur aujourd'hui. Il y en a eu quelques-unes, mais pas de cette ampleur. Mais voilà, après, c'est une jeune femme enceinte de son deuxième enfant. Donc, la vie ne va pas être facile au cours des prochains mois.
Dans l'actualité, un nouveau cloud à la française est en train de naître. Un cloud français vertueux avec d'un côté l'INRIA qui signe avec Hive, qui est une start-up.
Oui, Hive, start-up, plateforme de stockage de données sécurisées, avec quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aura d'ailleurs cette semaine ici, enfin ici même, il sera, parce qu'il ne vit pas en France, mais on l'aura en plateau. David Gurley, serial entrepreneur. On le connaissait avec sa messagerie chiffrée Symfony. Hein, il a fait vraiment un beau succès. Donc il a monté cette société Hive. Et puis, il a rencontré les gens d'INRIA. Ils se sont dit, mais pourquoi nous aussi on ne travaillerait pas sur un cloud souverain? Moi, j'ai ma plateforme, vous avez les connaissances. Et donc c'est l'INRIA, donc c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Donc c'est vraiment, enfin aujourd'hui ce sont vraiment nos chercheurs dans le numérique qui sont là, ils sont hyper brillants. Ce serait trop long de vous raconter la liste de start-up qui sont sorties ou d'innovations qui sont sorties de ces laboratoires. Et donc c'est plusieurs diplômants, c'est plusieurs post-doctorants qui vont travailler avec Hive pour monter ce cloud. Moi j'ai toujours un regret, mais ce sera l'occasion de nous poser la question à David Gurley, c'est, on nous parle, les premiers services sont attendus à partir de début 2024. Moi, c'est toujours ça, quand j'entends tous ces clouds souverains, que ce soit NumPost, que ce soit les offres Sense, on nous parle de 2023, parce que pendant ce temps, les Américains, ils ne nous ont pas attendus, ils continuent à avancer très vite.
Oui, et on commence à avoir plusieurs acteurs majeurs qui se positionnent sur le cloud, on va dire souverain.
Exactement.
En France, on commence à en avoir un paquet. Dans l'actualité, c'est Meta aussi qui est poursuivi au Royaume-Uni, Fred.
Oui, elle s'appelle Tania O'Carroll, retenez bien ce nom, c'est une militante de la technologie et des droits de l'homme qui a déposé une plainte devant la haute cour de Londres pour contester la publicité de surveillance, c'est-à-dire, vous le savez, on récupère des données, on fait des profils de clients et puis on va leur adresser la publicité ciblée. Et bien elle est très remontée contre ça, elle s'est adressée à un cabinet d'avocats qui s'appelle AWO et ils sont en train de travailler sur la réglementation générale. Ça peut faire ricochet sur l'Europe, la France. Donc on va suivre ça de très près. Surtout que Meta n'en est pas à son premier procès. Ils sont aussi attaqués par la Commission européenne parce que sur les flux transatlantiques, les flux de data transatlantiques. Ils sont aussi sur les actions antitrust en Allemagne et au Royaume-Uni. Et donc là, c'est autour des outils de Meta qui sont capables qui permettent la vérification et la confidentialité des gens et qui visent ses préférences publicitaires. Et donc Tania O'Carroll a porté plainte et on est en train de lancer ce procès, donc on va suivre ça de très près.
La bataille de l'infiniment petit dans les puces informatiques se poursuit. Vous connaissez le géant TSMC, on l'évoque souvent dans Tech & Co, qui est, on va dire, l'acteur majeur dans ce milieu-là, qui arrive à graver des processeurs vraiment à quelques nanomètres. Oui. Et bien TSMC confirme qu'il y aura une usine en Arizona qui va graver des processeurs en tout petit, en
3 nanomètres. Et là, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le 3 nanomètres, c'est vraiment oublié. Ça paraît un peu dur de dire ça, mais oublié presque le 5 nanomètres sur lequel s'était concentré TSMC. Il faut basculer vers le 3 nanomètres parce que c'est là où on va aller chercher toutes les performances. Le 3 nanomètres, c'est plus 70% en densité, c'est plus 15% en performance pure et c'est plus 30% en efficacité énergétique. Donc, le 3 nanomètres, c'est vraiment le futur pour les téléphones. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard. Donc, ils installent cette usine en Arizona. C'est Maurice Chang, le fondateur de TSMC qui l'a confirmé, 12 milliards de dollars d'investissement. Tout ça est engagé dans le plan Chips for America, parce que un Taïwanais aux États-Unis. Vous savez, en ce moment, ils sont pas chinois, ils sont taïwanais. Mais on sait que les Américains veulent vraiment cette souveraineté. Et justement, il se murmure que cette usine en Arizona va fournir qui en premier lieu ? Elle va fournir Apple. Et oui, Apple. Hein. Tim Cook a dit, je vous garantis que d'ici quelques années, nous aurons
notre propre site
de production de puces très fine composition. Ce sera aux États-Unis. Eh bien, TSMC l'a annoncé. Donc, on va voir ça. Et TSMC, quand même, un dernier mot. La clientèle américaine de TSMC, c'est 72% de son chiffre d'affaires. Donc, autant vous dire que TSMC en Europe, on oublie.
Merci Fred. Et on se retrouve tout à l'heure à partir de 21h pour débriefer l'actu tech de ce début de semaine. Ce sera avec Zoé Moll notamment qui nous rejoindra donc à partir de 21h. Il y a aussi Damien Licata Caruso qui est journaliste tech au Parisien qui sera avec nous. A tout de suite et on va découvrir sur le plateau de Tech & Co un robot français. Je ne vous en dis pas plus. Vous restez là, à tout de suite.
Tech & Co. Le grand live du numérique avec François Sorel.
On adore parler de robots, vous le savez, dans Tech & Co sur BFM Business. Ici, vous êtes avec nous en vidéo à la télévision. Vous allez pouvoir le découvrir dans un instant. Il s'agit de Plateau, un robot 100% français que vous croiserez peut-être bien dans des bars, dans des restaurants, dans des collectivités. Pour en parler, Xavier Lacherade est avec nous. Bonsoir, Xavier.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général d'Aldébaran et responsable Product Powerhouse chez United Robotics Group, qui est le nouvel actionnaire en fait d'Aldébaran depuis quelques mois déjà.
Depuis avril dernier, voilà. Et ça s'est concrétisé fin août.
Aldébaran, c'est bien sûr Paper, c'est Nao, c'est des pépites de la robotique ont évolué avec les années. Et ce qui est intéressant, on en parlait tout à l'heure lorsqu'on s'est croisé avant d'entrer sur ce plateau, finalement ce que vous allez nous présenter là, Plateau, puisque c'est comme ça que s'appelle ce robot, c'est un peu le grand frère en quelque sorte de Paper, finalement.
Totalement, il porte une nouvelle architecture qui est directement issue de celle de Paper.
Ouais.
Donc c'est une évolution de l'architecture. Et d'ailleurs, les tout premiers protos, c'était des Paper. Et ça s'est concrétisé maintenant sur un robot de service.
Voilà, alors on se rappelle de Paper, hein, qui était un robot d'accompagnement, qui était dans certains magasins, notamment au Japon. Hein,
absolument.
Qui permettait de renseigner certains clients, etc. Expliquez-nous à quoi sert vraiment Plateau que vous allez commercialiser. Est-ce qu'il est déjà commercialisé d'ailleurs ?
On démarre sa commercialisation mois de novembre.
D'accord.
On l'a exposé pendant plusieurs jours au salon Equip Hotel. Et donc, c'est le tout début de Plateau.
Alors, à quoi il sert ce robot ?
Donc, c'est un robot de service qui porte la troisième génération de robots qu'on appelle des Cobiot, qui sont des robots collaboratifs qui visent à fonctionner dans l'environnement de l'homme sans modification. Sans marqueur, sans outils, sans technicité particulière.
C'est-à-dire qu'il s'adapte en fait à son environnement.
Il doit s'adapter à l'environnement et à la complexité de l'environnement de l'homme.
Et on n'est pas obligé d'installer tout un attirail
Absolument rien. Tant que le sol est plat, le robot va se débrouiller,
il va scanner
les obstacles.
Comme un aspi robot, quoi, en quelque sorte. Il va scanner le sol.
Absolument. On va le pousser pour faire une carte.
D'accord.
Et après, dans cette carte, on va positionner des points d'intérêt. Et une fois que ces points d'intérêt sont définis, après, le robot va se débrouiller.
D'accord.
Ça prend à peu près 5 minutes pour le programmer, globalement. Après, ça dépend évidemment de la surface. Donc, sans outils, sans langage de programmation, sans expertise technique, c'est ce qu'on appelle du low-code ou no-code.
C'est du plug-and-play, quand même.
Exactement. Et puis, surtout, avec un contrôle dynamique par l'homme. C'est pas une programmation par anticipation, c'est l'homme qui va dynamiquement programmer le robot et lui demander d'aller à tel endroit ou à tel autre, qui va interrompre la mission et qui va du coup s'adapter. Donc le robot va bénéficier directement de l'intelligence et de l'expérience de l'homme dans un environnement donné. C'est ce qui permet à cette troisième génération de robots de pouvoir adresser l'automatisation de tâches qui sont aujourd'hui extrêmement qui nécessitent beaucoup de flexibilité et d'agilité et qui sont aujourd'hui réalisées que par les hommes.
Alors, on le voit, il est équipé d'un écran tactile, il fait 1m10 de haut, il a des plateaux, justement, d'où son nom, j'imagine.
Absolument.
Comment imaginez-vous la collaboration qu'il peut avoir avec les serveurs, ou en tout cas les salariés d'un restaurant, par exemple ?
Il est directement piloté ou par son écran interface ou par une tablette déportée ou encore par une commande vocale. Donc l'utilisateur va porter un casque et va piloter directement plateau à la voix en lui demandant de se rendre à un point d'intérêt avec une mission donnée. Donc c'est ou pour accompagner au service ou pour accompagner au débarrassage. Et le robot, systématiquement, doit être accompagné d'un homme. Donc il ne remplace pas l'homme. Il est là pour porter les charges, pour réaliser les tâches répétitives, compliquées et fatigantes.
Donnez-nous un exemple. Par exemple, un serveur arrive pour débarrasser une table. Mm-hmm. On peut imaginer que Plateau le suive.
Absolument. Alors, c'est où il envoie Plateau à la table et le serveur rejoint Plateau quand il arrive. À ce moment-là, il débarrasse la table, il charge le robot et il le renvoie en cuisine.
C'est ça.
Et le serveur peut rester dans la salle, s'occuper des clients, pendant que le robot, lui, fait les allers-retours.
Donc, il n'est pas là pour remplacer le serveur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne pourrais pas lui parler pour passer ma commande, en quelque sorte.
Non.
Peut-être dans un temps d'eux, à ce moment-là.
Probablement. L'évolution de notre société fera qu'on trouvera un intérêt à ces fonctionnalités. Dans un premier temps, on est très attaché à ce que le robot accompagne l'homme, à ce que l'homme continue d'être l'interface vis-à-vis, sociale vis-à-vis des clients, et que le robot, lui, décharge réellement de cette fonctionnalité. Aujourd'hui, on utilise l'homme principalement pour ses fonctions motrices. Les TMS sont la troisième cause d'arrêt de travail dans la restauration. Le robot a vocation justement à résoudre une partie de ce problème en faisant l'ensemble des tâches répétées et difficiles.
Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que c'est un vrai intérêt pour un restaurateur de s'équiper de ça ? Est-ce que par exemple, quand il y a du monde, je veux dire, un restaurant, ça grouille, il y a des gens qui passent, etc. Est-ce qu'il ne va pas être perturbé ? Est-ce que il va toujours pouvoir retrouver son chemin ? J'imagine que vous avez fait des tests grandeur nature.
Absolument.
Vous êtes satisfait du résultat ?
On est super content des résultats. Des tests qu'on a fait tout autour de chez nous, parce que les premiers restaurateurs qu'on a contactés, c'est ceux qui sont autour de notre site. On est à 10 minutes à côté.
On aurait dû venir pour faire des essais avec Plateau. Alors.
On aurait pu, et c'est vrai que l'ensemble des partenaires avec lesquels on a fait des tests sont extrêmement contents. On a fait effectivement des services type coup de feu, où le robot a porté 10 plats pour livrer une table en une fois, accompagné du serveur qui lui aussi portait des plats, et le robot a parfaitement navigué dans la salle encombré jusqu'à sa destination. Donc,
Quel est le modèle économique que vous envisagez ? C'est quoi ? C'est de l'achat pour les restaurateurs, de la location ? Comment ça fonctionne ?
On envisage les deux. Donc, il est ou vendu à un prix public conseillé de 18 500 euros ou loué à partir de 699 euros.
Et bien voilà, ça s'appelle Plateau et c'est le dernier bébé donc d'Aldébaran. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech & Co, Xavier Lacherade, directeur général d'Aldébaran et responsable donc Product Powers chez United Robotics Group.
Merci beaucoup.
Et vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant. Comment l'intelligence artificielle et le numérique peut révolutionner le sport et notamment le rugby ? On en parle dans un instant avec mon invité, à tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Et on va s'intéresser justement, je le disais, au sport. Le sport qui, bien entendu, embrasse le numérique. Alors certains sports vont plus vite que d'autres. On le voit, le tennis par exemple, depuis des années, a de la tech partout pour mesurer la vitesse des balles, pour savoir si une balle est ou dehors ou dedans. Enfin bon, bref, on va pas vous refaire toute l'histoire. Le foot aussi s'intéresse de plus en plus à la tech. On voit qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui sont bardés de capteurs. Ça arrive aussi, c'est intéressant, dans le rugby. Et on va en parler avec mon invité, Jean-François Sébastien. Bonsoir.
Bonsoir François.
Vous êtes le directeur général de SAS France, qui est un leader de l'analytique. On présente plus SAS. Vous allez nous parler ce soir de ce partenariat que vous avez noué avec la Fédération française de rugby.
Oui.
Et le 15 de France.
Et le 15 de France, effectivement. Alors c'est une belle histoire, parce que c'est parti d'une rencontre. Donc une rencontre de personnes, une rencontre d'hommes, entre Fabien Galthié et moi. Comme tout patron, je cherchais quelqu'un d'inspirant pour venir pitcher devant les collaborateurs de SAS. Et je me suis intéressé à Fabien Galthié, qui a accepté. Et en préparant l'émission, en fait, on s'est aperçu que, finalement, il y avait comme... pas mal de points de convergence entre nous. Lui, il avait une volonté très forte de développer l'analytique et vraiment, c'était de faire de la France le leader mondial de l'analytique pour son équipe. Et puis, moi, forcément, je dirais que toutes les valeurs que porte le rugby, des valeurs de collectif, d'engagement me parle. Et du coup, on s'est lancé avec passion d'abord dans une expérimentation, parce qu'il fallait qu'on prouve. Et puis au bout d'un an et demi, quand on a démontré finalement notre capacité à apporter de la valeur et de participer aux excellents résultats qu'on a vus avec, avec l'équipe, eh bien, c'est là où la fédération s'est intéressée à nous pour voir comment on pouvait les accompagner sur plusieurs années dans l'innovation dans le rugby.
Concrètement, expliquez-nous, Jean-François, comment le numérique révolutionne une équipe de rugby, la manière dont ils jouent, comment on accélère tout ça, en fait.
Alors, le rugby, en fait, comme tout sport, hein, récupère des données GPS, on appelle ça les données GPS, et la Fédération française de rugby avait pléthore de données, avec déjà une équipe en place hein, qui cherchait à structurer un petit peu toutes ces données. Bon, le rugby, c'est un sport aussi où il y a plusieurs entraîneurs, plusieurs coachs. Donc, chaque coach travaillait un peu en indépendant, et puis beaucoup à l'intuition. Donc finalement, on est arrivé en apportant la couche hein, analytique avec notre plateforme Vaia, qui a permis de restructurer un petit peu les données, désiloter un petit peu ce travail, et puis faire en sorte que les coachs puissent travailler ensemble sur les mêmes données.
C'est-à-dire que vous avez, pour qu'on comprenne bien, pour qu'on soit concret, vous avez les parcours de chaque joueur, l'historique du parcours de chaque joueur pendant un match, c'est ça, toutes les actions qui vont être mémorisées, et en fait, c'est...
Alors, c'est toutes les actions.
Toutes ces actions,
c'est-à-dire que tout a été enregistré, catégorisé, donc les matchs en club, les moins de 20 ans, les matchs masculins bien sûr, avec les différentes actions possibles. On a commencé par la touche, avec l'entraîneur Karim Ghezal de la touche, donc sur le lancer de touche, la vitesse de la balle, les positionnements des joueurs, etc. Et puis après, on s'est attaqué à la mêlée, aux fautes. On va même jusqu'à analyser le jeu de l'arbitre, savoir à quoi il est sensible, pour savoir finalement, voilà, est-ce qu'il dégaine assez facilement les cartons ou pas.
Donc,
non, ça va quand même assez loin.
Pour et, après avoir quoi, une prédiction, en quelque sorte, c'est ça?
Alors, c'est là où c'est un peu plus compliqué, parce que Fabien Galthié, déjà, a une appétence particulière pour la techno.
Ouais.
C'est un ancien consultant d'un grand intégrateur. Et il nous a dit, en fait, ce challenge, qui peut paraître simple, hein, il nous a dit, voilà, moi, c'est simple, hein, j'ai une question simple, je veux une réponse simple. Je prends un exemple qui est public, donc je peux le dire. Le match contre les All Blacks, il nous a dit « Dites-moi, quelle est la combinaison qui fait le plus reculer les All Blacks ?» C'est simple comme question. La réponse qu'il attend et qu'on a fournie, mais c'est là où c'est complexe, c'est de dire « Bah voilà, c'est telle combinaison. »
Parce que vous avez analysé en fait tous les matchs des All Blacks, ou en tout cas toutes les rencontres où il y a eu confrontation entre les All Blacks et le 15, c'est
et
ça
pas que le 15, et également les autres équipes.
Ah oui,
c'est là en fait on apporte beaucoup de valeur.
C'est de la data, c'est incroyable. Quoi.
C'est de la data, alors... On a en plus travaillé avec une équipe de data scientists, hein, puisque finalement on a fourni les outils, mais également une équipe qui est venue renforcer l'équipe du 15. Et on a travaillé sur des requêtes vraiment très créatives, où finalement on rentre des questions, et après par des jeux de filtres, on va très très loin dans la granularité finalement de la réponse.
D'accord. Il paraît qu'il y a même des ballons connectés maintenant, des ballons de rugby.
Oui. Ça arrive, et la France est l'un des premiers pays d'ailleurs à le tester. On l'a vu, hein. Je ne sais pas si vous avez vu autour du terrain, vous avez des piquets un peu étranges, il y en avait 8, et qui repèrent donc les ballons connectés. Les ballons connectés, et puis aussi, bientôt arrivent les protège-dents connectés, pour mesurer les impacts notamment. Et de ces impacts, on va pouvoir aussi faire le lien sur le degré technique, le niveau technique des joueurs.
Jusqu'où doit aller la tech, en fait, dans ces rencontres sportives? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, on s'est amusé à interroger l'IA, en fait, de FIFA. Vous savez, donc, ce fameux jeu de foot qui, depuis des années, arrive à prédire les gagnants de la Coupe du Monde de foot. C'est incroyable. Et si vous regardez l'historique, ils arrivent même à avoir les finales, les demi-finales. Il y a très très peu d'erreurs. C'est même effrayant d'ailleurs.
Ouais.
Parce que je crois que c'est l'Argentine qui est donnée gagnante là pour ce FIFA 2022. Est-ce que il y a une limite à ne pas franchir en termes de tech dans le sport, à votre avis?
Non. Après, c'est tout dépend de ce qu'on en fait. C'est toujours pareil. C'est la tech, c'est toujours une question d'usage. Je vois par exemple Fabien Galthié, lui c'est très clair, il dit lui-même hein, c'est ce qu'il a encore déclaré là récemment, que lui ne se laisse pas dominer par les chiffres, c'est vraiment une aide à la décision. Et d'ailleurs pendant le match il est complètement déconnecté, il fait confiance à son intuition, il pense qu'il a suffisamment préparé, il revient à ses vraies valeurs.
D'accord.
Et c'est vrai que bon, ça, on ne peut pas remplacer non plus l'intuition et puis le French flair. Le fameux French Flair.
Exactement. Voilà un joli partenariat, bien sûr, qui sera, on va dire, au top, à son apogée lors de la Coupe du Monde de septembre 2023. Vous aurez sans doute l'occasion de revenir nous en parler.
On va continuer à bien progresser, je vous assure.
Merci beaucoup, Jean-François.
Merci, François.
Vous êtes passé par le plateau de Tech & Co. Jean-François Sébastien, donc directeur général de SAS France. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va retrouver l'Info Éco. Ce sera avec Nathan Cocampo. Et entre autres, comme invité tout à l'heure, c'est André Manoukian. Et oui, le musicien, le juge qu'on a connu à l'époque de la Nouvelle Star, vous allez voir, il est hyper connecté aussi, il adore le numérique, et va nous parler de IA et de musique. Ce sera dans une dizaine de minutes, donc vous restez avec nous sur Tech & Co. C'est BFM Business, à tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
20h31, merci d'être avec nous sur BFM Business, à la radio, à la télé. L'info éco, ce soir, c'est avec Nathan Cocampo. Bonsoir Nathan.
Bonsoir. À la une, les nouvelles règles de l'assurance chômage. Une durée d'indemnisation réduite de 25% lorsque le taux de chômage est inférieur à 9% ou qu'il baisse pendant 3 trimestres consécutifs. À l'inverse, lorsque le taux de chômage est supérieur à 9% ou qu'il augmente de 0,8% sur un trimestre, les règles d'indemnisation seront identiques à celles d'aujourd'hui. Il est temps de mettre fin au quoi qu'il en coûte. Voilà l'appel du FMI à la France aujourd'hui. Les milliards dépensés pendant la crise énergétique sont évalués à près de 2% du PIB. Pas de réduction du déficit en 2023. L'ajustement budgétaire n'est pas prévu avant 2024. Emmanuel Macron reçoit les grands industriels européens lors d'un dîner à l'Élysée. Objectif, les inciter à ne pas délocaliser aux États-Unis. L'exécutif s'inquiète de l'Inflation Reduction Act, le plan américain accusé de provoquer une distorsion de concurrence. Louis Carvignon, PDG de Ford France, sera d'ailleurs sur BFM Business pour parler de ce sujet à 20h demain sur Tech & Co. MSC renonce au rachat d'ITA Airways. Le géant suisse avait fait une offre en janvier conjointement avec Lufthansa. MSC estime que la procédure actuelle ne réunit pas les conditions nécessaires à un tel rachat. De son côté, Lufthansa compte recruter 20 000 salariés. Avec la reprise du trafic aérien, la compagnie allemande a besoin de main-d'œuvre dans 45 métiers, dont des techniciens, pilotes et personnel de cabine, sur ses sites en Allemagne, Autriche, Suisse et en Belgique. Carmat a repris les implantations de son cœur artificiel. Elles se feront progressivement en fonction de la reconstitution du stock de prothèses. L'entreprise table sur une production de 500 cœurs artificiels sur l'année qui vient. Et après 7 semaines dans le vert, le CAC 40 fait une petite pause, moins 0,15% à 6634 points. Étienne Vrac, bonsoir. Du côté des États-Unis, un titre à surveiller, Disney, qui gagne plus de 6%.
Ouais, les marchés qui achètent la nouvelle, qui achètent surtout, eh bien, le retour de l'ancien patron Bob Iger, qui a dirigé Disney pendant plus de 15 ans entre 2005 et 2020. Le conseil d'administration qui a sûrement jugé qu'il était indispensable pour diriger le groupe, hein, d'autant plus que le titre Disney n'est pas en forme depuis son départ. Il a même perdu 50% entre mars 2021 et aujourd'hui, alors que dans le même temps, le S&P 500 a perdu 12%. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, Disney+, qui était perçu comme un relais de croissance et au final perçu aujourd'hui par les investisseurs comme une source de perte et une source de problème. Certes, Disney+, a un nombre d'abonnés record, plus de 160 millions, ce qui est énorme, mais dans le même temps, il a perdu 1,5 milliard de dollars en l'espace de 3 mois. La goutte d'eau, donc, de trop pour les investisseurs, sachant que le titre avait déjà perdu plus de 10% en une séance au début du mois de novembre. Autant de raisons donc qui expliquent aujourd'hui la démission de Bob Chapek.
Merci beaucoup Étienne. 20h34, tout de suite Tech & Co. On va parler d'intelligence artificielle et de médecine, tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et j'accueille sur ce plateau Maximilien Levesque. Bonsoir Maximilien.
Bonsoir François Sorel.
Vous êtes le PDG d'Akemia, Akemia qui fait partie de ces pépites du quantique en France. Il y en a quand même quelques-unes et voilà, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour que vous nous expliquiez un petit peu votre mission. Vous êtes vous-même ancien chercheur au CNRS.
Oui.
Akemia qui a été créé en 2019. L'actualité, c'est que vous venez de lever, il y a quelques semaines de cela, 30 millions d'euros. Parce que votre credo, c'est le fait de dire que les algos, la puissance de calcul, l'intelligence artificielle, eh bien, va accélérer la recherche médicale. Alors, vous n'êtes pas le premier à le dire, mais vous avez une particularité, c'est que vous imaginez tout ça avec la puissance de calcul du cloud. C'est ça ?
C'est exactement ça. Akemia, on cherche des médicaments. Notre mission, c'est de trouver des médicaments, par exemple, contre des cancers, par exemple pancréas, foie, poumon. Et ce qui nous rend absolument unique, c'est une technologie qui nous rend très efficace. Et cette technologie-là, bah en effet, vous l'avez dit, elle est basée sur de l'intelligence artificielle et sur de la physique dite inspirée du quantique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on simule vraiment ce qui se passe à la plus petite des échelles, à l'échelle des atomes et des molécules, ce qui se passe dans le corps humain, dans vos cellules, dans les cellules qui sont, par exemple, malades.
C'est-à-dire que grâce à toute cette puissance de calcul, vous arrivez à créer un jumeau numérique d'une cellule d'un organisme, c'est ça ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on arrive à créer, ce qu'on arrive à simuler, c'est à reproduire le mécanisme à l'échelle des... C'est en dessous de la cellule encore, c'est les molécules. On arrive à reproduire ce qui rend malade. Et donc, on invente dans l'ordinateur, avec de l'intelligence artificielle, la petite molécule, le principe actif, le médicament qui va venir bloquer le mécanisme de la maladie.
Et ça va beaucoup plus vite que
les
expérimentations traditionnelles.
Exactement.
Qui pourraient être biologiques. Là,
exactement,
c'est que des maths, en fait. Enfin, des maths, je schématise.
Oui.
Mais en quelque sorte, c'est... vous testez à chaque fois une molécule sur telle simulation. En fait, c'est un immense simulateur que vous modifiez à chaque fois, en quelque sorte.
C'est ça. On invente dans l'ordinateur le médicament potentiel. Et ensuite, Akemia ne fait pas que du numérique. Nos candidats médicaments sont ensuite testés biologiquement, puis dans la cellule. Puis aujourd'hui, nos projets les plus avancés contre des cancers aujourd'hui incurables sont testés dans des animaux.
Alors justement, où est-ce que vous en êtes ? Comment vous arrivez à prouver à la communauté scientifique, à tout le monde, que ce que vous êtes en train de mettre au point, ça marche ?
Alors, c'est vrai qu'il y a 3 ans, quand on a cofondé Akemia avec Emmanuel Marciano, mon associé, c'était une technologie purement mathématique. Depuis, des milestones, comme on dit, avec des collaborations avec les plus grands laboratoires, leaders mondiaux de la recherche de médicaments, qui disent « ça marche ». Des projets de recherche de médicaments en interne, comme je vous disais, qui en sont à l'étape... On n'est plus dans l'ordinateur. Ce sont des candidats médicaments testés sur des animaux. Et tous ces milestones, les uns derrière les autres, fait qu'aujourd'hui, on investit, des gens ont investi 30 millions d'euros de fonds d'investissement, Euraseo, BPI France Large Venture, pour financer la suite d'Akemia.
C'est-à-dire qu'on va accélérer... Les traitements contre le cancer, on peut le dire aujourd'hui ouvertement, sans trop de tabous ?
Je le crois, oui.
C'est incroyable.
En fait, c'est à la fois... C'est pas incroyable, en tout cas c'est notre mission chez Akemia. Mmh. C'est-à-dire que la technologie et l'équipe...
Non, parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on combat le cancer avec des résultats très encourageants d'année en année, etc. Mais il y a encore des centaines de milliers de gens qui meurent du cancer.
Exactement.
Donc l'idée, c'est que grâce à vous, à votre méthode de recherche et de calcul, vous imaginez pouvoir cibler certains cancers pour en réduire la mortalité ?
Alors c'est pas qu'on s'imagine, c'est qu'on y travaille très fort avec une équipe aujourd'hui de 50 personnes. Je peux vous dire, je le crois, parmi les gens les plus brillants aujourd'hui qui viennent du monde entier pour nous rejoindre. On était 20 au début de l'année, 50 personnes aujourd'hui au cœur de Paris. Ils viennent du monde entier à Paris pour nous rejoindre et rejoindre cette aventure pour soigner des cancers. Ils viennent pas pour autre chose que soigner des gens malades. Et dans un an, on sera 150. On cherche 100 personnes pour nous rejoindre en intelligence artificielle, physique, chimie, biologie et d'autres domaines, même des mathématiques théoriques.
Alors après, la recherche médicale, c'est un temps long.
Oui.
Avant qu'on retrouve le fruit de votre travail, ça peut prendre des années.
Oui. Alors ça, c'est à la fois une frustration et...
Une nécessité. D'accord.
Une nécessité. On n'est pas dans l'incantatoire, on est dans la rigueur scientifique et dans le fait de... C'est un ancien chercheur qui vous parle. Dans la rigueur scientifique et le travail pour que, en utilisant au mieux notre technologie issue de la physique quantique qui vient du CNRS et de Normalsup, avec une équipe incroyable, on arrive à raccourcir au maximum les délais et à soigner des gens qui aujourd'hui ne sont pas soignés ou sont mal soignés.
D'accord. Quels sont les cancers donc, que vous ciblez là actuellement ?
Alors, on travaille avec des laboratoires pharmaceutiques, des leaders mondiaux, comme je vous disais, par exemple Sanofi et Janssen, ce qui est public. Et on travaille aussi avec nos projets de recherche propres, Akemia seul qui développe ces candidats médicaments, ces médicaments. Et on travaille sur des cancers qui sont typiquement, par exemple, des tumeurs solides, différentes tumeurs solides dans le corps et des tumeurs dits liquides, c'est-à-dire des leucémies, etc.
Voilà, ça s'appelle Akemia. Merci beaucoup, Maximilien Levesque.
Merci à vous.
Voilà. Explosion en tout cas auprès de toute l'entité médicale, et rappelons que vous avez 12 projets de recherche actuellement,
oui,
et que vous envisagez de doubler de taille en recrutant une cinquantaine de personnes dans les mois qui viennent. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant avec André Manoukian qui nous rejoint sur ce plateau. On va parler musique bien sûr, mais intelligence artificielle. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique, avec François Sorel.
Et oui, je vous le disais, André Manoukian est sur le plateau de Tech & Co sur BFM Business. On lui a déroulé le tapis rouge. Enfin non, je dis ça, mais c'est même pas vrai, parce qu'on n'a pas de tapis rouge. Bonsoir André.
Bonsoir.
Ravi de vous recevoir.
Merci de me...
Vous êtes un personnage attachant, familier, hein, pour la plupart d'entre nous. Hein. On vous a tous connu à la télé, bien évidemment, en tant que musicien aussi. Voilà, vous avez été présentateur radio, vous avez fait de la télé. Enfin, vous pourriez être à ma place, finalement, ce soir. Mais vous êtes aussi entrepreneur, c'est ça qui est intéressant. Et depuis très longtemps, vous vous intéressez à la tech et à la musique, bien avant Matchune, que vous allez nous présenter là. Hein. Je regardais un petit peu ce que vous avez fait, mais vous aviez des idées sur la tech il y a plus de 20 ans déjà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites qu'aujourd'hui, l'IA est en train de bouleverser toute la musique. On va y revenir dans un instant, peut-être un mot sur Matchune pour débuter, hein, puis qui est votre start-up que vous avez lancée il y a quelques mois de cela.
Absolument, il y a 4-5 ans. Avec Philippe Guillaume, mon associé, qui lui est complètement dans la tech. Musique et tech, bah, ça a toujours marché ensemble. Sans la tech, il n'y a pas de piano forte et il n'y a pas Beethoven. Quoi, ouais, voilà.
La tech a complètement aussi bouleversé la musique, et pas forcément dans le bon sens. Hein. Le MP3, les Napster, les Kazaa, enfin tous ces trucs-là. Le streaming qui est arrivé aussi, qui a complètement bouleversé ce métier, en fait.
Alors, et comme d'habitude, j'allais dire, ce sont les créateurs qui vont être pénalisés. Aujourd'hui, grâce au streaming, les majors disent, bah voyez, ça recommence à fonctionner. Mais en réalité, quand vous pensez aux revenus que vous avez et qu'il faut sur 200 000 écoutes pour générer quelque chose comme $400, c'est complètement ridicule, oui, quoi. Donc,
c'est pas avec ça qu'on va vivre.
Non, c'est pas avec ça. Alors,
si on s'appelle Rihanna ou Elton John.
C'est ça. Mais moi, je constate deux choses. Depuis que quand j'étais jury dans une émission dont on va pas parler ici, dont on va fêter les 20 ans, constatais, voilà, c'est la nouvelle star, le niveau des candidats était, le niveau musical était assez bas. On avait du retard, nous, en France, par rapport aux voix. 20 ans plus tard, le niveau des gosses, il était comme ça. J'ai vu cette évolution.
C'est grâce à YouTube.
C'est grâce au net, c'est grâce à tous les tutos. Donc, il y a un potentiel éducatif énorme. J'ai des gosses de 16 ans qui arrivaient en chantant Otis Redding. Je dis, c'est la musique de ton père, de ton grand-père, mais non, Internet, quoi. Donc, il n'y a jamais eu autant de créateurs en termes de musique. Mais du coup, avant, il y avait 10 gardiens qui vous empêchaient de rentrer dans la piscine. C'était les maisons de disques. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a plus de gardiens. Tout le monde rentre dans la piscine, tout le monde se noie. Comment faire pour émerger? Imaginez qu'il y a 80 000 uploads par jour. Il y a 80 000 nouvelles musiques qui arrivent chaque jour sur les plateformes. Comment vous faites pour vous faire remarquer dans ce cas-là? Il y a 5-6 ans, je vous aurais dit, quelqu'un qui a du talent ne peut pas passer à côté d'une carrière. Encore moins au monde d'intérêt, au monde, dans le monde dans lequel on vit, d'Internet. Bah, aujourd'hui, j'arrive presque à en douter. Alors, on a eu l'idée, justement, pour aider les compositeurs, les auteurs à se faire connaître. Il y a 500 000 créateurs de vidéos dans le monde. Ok, il y a 500 000 ce qu'on appelle des content creators. Et ces gens-là
qui postent sur YouTube,
dans un domaine semi-professionnel. Ces gens ont besoin de musique. Ça devient de plus en plus compliqué. Pour une bonne raison, c'est que déjà les majors commencent à blinder leur catalogue, et ça, heureusement, on va dire. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que vous avez des musiques qui fonctionnent. Alors vous les aimez bien, alors vous les remettez finalement. Moi, mes gosses, ils disent, mais c'est toujours les mêmes musiques qu'on entend sur les vidéos. On a eu l'idée, grâce à l'intelligence artificielle, justement, de processer le catalogue. Ça, c'est MatchTune. Notre ADN, c'est ça. C'est que, admettons que vous soyez publisher, vous avez signé, vous avez 100 chansons à votre catalogue. Nous, on les prend, on vous les processe et sur notre plateforme, vous chargez votre film. Un drag and drop suffit et la musique, elle est synchronisée immédiatement.
Vous allez analyser
dans l'instant.
La vidéo.
Ça se fait en un instant.
Et vous allez me créer une petite musique.
Exactement.
Issue de toutes les musiques que vous avez dans votre bibliothèque.
Et c'est pas un assemblage, hein. Ce sont des vraies musiques qu'on a signées. Ce sont des vraies musiques composées par des producteurs, par des compositeurs avec des droits.
Et c'est pas des mélanges de musique.
C'est pas des mélanges de musique.
Telle vidéo, l'algo dira, bah, c'est telle musique qui va aller
exactement.
Avec cette vidéo.
Et si vous aimez pas, vous scrollez on comme ça, jusqu'à ce que vous trouviez le bon costume. Donc l'outil, il est super ludique. On a signé des grands catalogues, mais on travaille avec des gens qui font des musiques instrumentale. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais il y a plein de chanteurs pop, de chanteurs qui font du rock, qui font tous les styles musicaux et qui aimeraient peut-être avoir un accès à l'image. Donc, du coup, on a lancé un programme qui s'appelle Artist Music Programme, ce qui va permettre à tous les compositeurs qui ont des musiques qui mérite naturellement, puisqu'on est en train d'assembler. Moi, j'ai essayé sur Twitch, mais il y a un nombre de talents qui est exponentiel. Et moi, ça me fend le cœur. Il y avait plein de gens qui nous disaient à l'époque de la Nouvelle Star, c'est formidable, vous découvrez des nouveaux talents, mais après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous ne pouvez pas les aider.
La plupart sont retombés dans l'oubli. Alors, il y a eu quelques stars, heureusement. Mais
pour les aider, il faut leur donner un mode d'emploi. Mmh. Il faut, voilà, il faut arriver à les organiser. Grâce à ce programme, en réalité, on leur propose de mettre leur musique sur des catalogues de créateurs de vidéos.
Ça, c'est MatchTune.
Et ça ne les empêche pas de si ça se trouve on va travailler avec des music supervisors de Los Angeles et moi je dis aux gars vous risquez rien du tout simplement.
Et après, c'est quoi, vous faites un rêve cher, vous partagez
exactement
les revenus,
50% pour les artistes et puis 50% pour la plateforme.
Dernière petite question, André, avant de vous laisser. On voit que l'IA est partout aujourd'hui, on en parlait il y a un instant avec la recherche médicale. Est-ce que demain l'IA va pouvoir créer de la musique toute seule?
Non. Alors,
sans musicien.
Vous savez quoi? Le jour où un robot composera une œuvre musicale digne de ce nom, c'est le jour où il aura éprouvé un chagrin d'amour. On a un peu de temps avant ça. Temps. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Par contre, l'IA au service des musiciens, au service des compositeurs, de la même manière qu'un grand peintre du 15e siècle avait des petites mains qui lui faisaient le boulot.
Ou son pinceau.
Mais du coup, ça, l'IA pour aider les musiciens à progresser.
Et le créateur sera toujours humain.
Mais évidemment.
Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. C'était un plaisir, André Manoukian.
Merci à vous.
Avec donc bientôt une émission sur M6 pour fêter les 20 ans de la Nouvelle
Star.
On
va fêter les 20 ans de la Nouvelle Star bientôt, ce sera...
Ça a rappelé de bons souvenirs.
De bons souvenirs. Marianne James, Manu Katché, Dove, Julien Doré, tout ça. Enfin voilà.
Vous n'avez pas changé, donc c'est nickel.
C'est vrai?
Ah ouais.
Vous non plus.
Ah, c'est sympa. Mais vous ne m'avez pas entendu chanter.
Je veux pas.
C'est pas cool. Merci beaucoup, André.
Merci.
Et tout de suite, direction New York. Soyons un peu sérieux ce soir, s'il vous plaît.
Tech & Co. What's up, New York?
Bonsoir Sabrina, et me voilà en train de faire chambrer par André Manoukian. Décidément, c'est ma
soirée.
Bonsoir
François.
Bonsoir. Donc Sabrina, qu'on retrouve donc depuis New York, vous le savez, pour toute l'actu que tu as sélectionnée pour nous. Et on va commencer par Sponsor United, qui lève 35 millions de dollars pour sa plateforme de données sur le marché du sponsoring, tiens.
Oui, le sponsoring, c'est un gros marché. Hein. C'est une industrie qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Le problème, c'est que les données sur le sponsoring, comme qui sponsorise qui, c'est pas évident d'en avoir toutes ces données en raison des différentes formes, des différents supports. C'est non seulement sur les sites internet, les réseaux sociaux, mais les panneaux d'affichage physique, les t-shirts joueurs d'une équipe sportive. Bref, c'est bien compliqué pour les marques, pour les destinataires. Le manque de données représente un énorme challenge. Les marques ne savent pas toujours comment facturer, combien facturer. Les sponsors ne sont pas non plus toujours au courant des deals. Bref, c'est pour répondre donc à cette opacité du sponsoring parrainage que Bob Lynch, qui est un ancien VP des partenariats des Dolphins, c'est l'équipe de football de Miami, eh bien, il a lancé en 2017 donc Sponsor United. Il décrit la start-up en gros comme le terminal Bloomberg du sponsoring. C'est une plateforme donc qui analyse toutes les données dans l'industrie. La start-up y traquait plus d'un million de parrainages parmi 250 000 marques. Sponsor United travaille avec un peu plus de 2900 marques aujourd'hui, hein, dans plusieurs Fortune 500, des agences publicitaires, des groupes médias également. Ça semble d'ailleurs plaire, hein, puisque aux investisseurs, puisque tu l'as dit, elle vient de lever, la start-up vient de lever 35 millions de dollars auprès d'un groupe mené par Spectrum Equity, ce qui porte à un peu plus de 38 millions de dollars le montant levé par cette société depuis le début. Donc intéressant de voir comment cette start-up et comment cette industrie des sponsors fonctionne avec donc la société qui, avec cet argent levé, hein, bien sûr, entend améliorer sa plateforme et aller chercher d'autres marchés outre les États-Unis. Donc à surveiller, Sponsor United, donc qui lève 35 millions de dollars aujourd'hui.
Bon, on va parler un peu d'amour maintenant, Sabrina, si tu me le permets, puisque nous allons découvrir Wolve, qui lève quand même près de 4 millions de dollars pour rendre, écoutez bien, le processus d'achat de bagues de fiançailles moins stressant. C'est vrai que ça peut être stressant, choisir une bague.
Ah, ouais. Eh ben, eh oui, c'est oui. Tradition, c'est on fait un peu la même chose depuis ça remonte à très longtemps tout ça, hein, la façon dont les choses fonctionnent, et donc Wolve espère dépoussiérer un petit peu ce processus. C'est une société, une start-up qui est basée en Connecticut, un bijoutier en ligne qui veut donc intégrer de la tech dans cette expérience d'achat d'une bague de fiançailles. Le but, c'est accélérer le processus de création de pièces uniques. La start-up vient de lever 3,85 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs mené par Springdale Venture. Alors ce sont, figure-toi, deux anciens de West Point. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais West Point, c'est l'académie militaire la plus réputée des États-Unis. Ils étaient d'anciens gardes forestiers également. C'est Andrew Volgemuth et Brian Elliott qui ont donc lancé cette société en 2021. C'est tout récent. C'est une passion qui est devenue un business. Ça a commencé avec la création, le design de bagues de fiançailles auprès de leurs amis, de leurs collègues. Et puis en voyant une demande complètement folle, ils se sont dit, y a peut-être quelque chose à faire. Et en fait, le but, c'est bien sûr de casser les codes de cette industrie, sur ce segment tout particulier, pour les fondateurs. Les choses ont en effet bien évolué. Une union, c'est aujourd'hui plus un partenariat. Et du coup, tu sais, aller chercher une bague de fiançailles sans vraiment savoir si sa moitié va l'aimer, ça fait plus trop de sens, explique Wolve, qui promet donc aujourd'hui non seulement d'éviter cette visite dans une boutique délicate, mais qui propose aussi des bagues sur mesure, personnalisables, qui peuvent être essayées à la maison et surtout créées 6 fois plus rapidement qu'un joaillier traditionnel, 100% made in the USA, avec des matériaux durables, en gros, compter 2 semaines d'expérience de design et un prix moyen, c'est pas non plus donné, 10 000 dollars. C'est en gros supérieur à ce que l'on voit ici aux États-Unis. On a une moyenne pour une bague de fiançailles qui est à 6 000 dollars. Donc un petit peu plus cher, mais alors beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Jusqu'à présent, ce que nous explique la start-up, c'est que les célébrités étaient les seules personnes à pouvoir s'offrir comme ça des bagues sur mesure, explique Vauve, qui souligne eh bien que la technologie d'impression 3D, hein, c'est elle vraiment qui a changé la donne et qui permet vraiment de faire bouger les choses sur ce segment bien particulier. Sachez en tout cas que depuis le lancement de la société, donc il y a moins d'un an, Vauve a quand même créé des milliers de bagues de fiançailles et ses revenus ont été multipliés par 5. Petit clin d'œil donc pour cette levée de fonds un petit peu plus petite que donc la précédente, mais c'est une société donc qui est pas loin d'ici là, dans le Connecticut, et une jolie histoire pour bousculer un petit peu les choses là, et l'achat de bagues de fiançailles et accélérer le processus donc grâce à la technologie d'imprimante 3D.
Eh bien voilà qui est beau. Merci beaucoup Sabrina. Sabrina depuis New York, bien sûr, comme chaque soir. À demain Sabrina. Et vous restez avec nous bientôt 21h sur BFM Business. Tech & Co revient dans un instant avec au sommaire pour notre deuxième partie le débrief de l'actu tech avec Fred Simotel, Zoé Moll et Damien Licata Caruso qui me rejoignent. On reviendra évidemment sur Twitter, sur Terranos aussi. Et puis en deuxième partie de Tech & Co vers 21h30, ce sera notre rendez-vous Station F avec deux start-up Wine Tech. Et oui, quand la tech s'attaque au vin, eh bien ça donne des choses assez intéressantes qu'on découvrira. Merci d'être avec nous. En tout cas, Tech & Co chaque soir 20h, 22h à la radio, à la télé en direct, et puis bien sûr juste après sur tous vos écrans, vidéo, audio, on vous attend en podcast aussi. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
On débriefe la tech comme chaque lundi et comme chaque jeudi. Vous le savez, le jeudi c'est 21h-22h, le lundi 21h-21h40. Avec ce soir, Zoé Moll qui est avec nous. Salut Zoé.
Bonsoir François.
Ça faisait longtemps, dis donc.
Un petit moment en effet, ouais.
Voilà, et puis Zoé qui a changé aussi de crèmerie au passage, puisque maintenant tu es associée chez Balderton Capital.
En effet, oui.
Voilà, nouvelle aventure professionnelle.
Nouvelle aventure, c'est un très beau fonds anglais, oui. Avec 5 milliards sous gestion, 1,3 milliard qu'on est en train de déployer en ce moment.
Avec créé par des anciennes Business Object.
Oui, Bernard Liotto était un des et le managing partner aujourd'hui. En effet, il y a des entrepreneurs, il y a des opérateurs, il y a des investisseurs. Et donc moi, je suis basée à Paris.
Bon, ça c'est bien, comme ça tu pourras venir nous voir de temps en temps.
Exactement, le plus souvent possible.
Voilà. Et donc Balderton a aussi la volonté d'investir beaucoup dans des startups françaises.
Absolument, et l'a fait historiquement. Oui. Il y a plus d'une vingtaine d'investissements en France, dont Aircall, Sweep, Talend, Vestiaire Collective évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Et plus récemment, Photoroom qui a été annoncé il y a une semaine.
Voilà, et vous pouvez investir de l'amorçage jusqu'à la phase de croissance, hein, en fait,
exact.
De la société.
Donc des tickets de 1 million d'euros jusqu'à 70 millions d'euros.
Tu prends quoi, 1 million, 70, Fred? Qu'est-ce qui te va? Tu prends tout, toi.
En crypto.
En crypto, bien sûr. Sur FTX.
Sur FTX
de préférence. Très bien, en tout cas, Zoé, on est ravis de te retrouver. Et à tes côtés, Damien Licata Caruso est avec nous. Bonsoir, Damien.
Bonsoir.
Cher confrère, on peut le dire.
Oui, on peut le dire. Oui.
Journaliste tech au Parisien. Voilà, le quotidien que vous lisez tout comme nous, sans doute, tous les jours. Et Frédéric Simotel, bien sûr. Bonsoir. L'actualité du moment. Bon, écoutez, on va commencer. C'est par Twitter, je sais que tu en as beaucoup parlé la semaine dernière.
Je conseille d'ailleurs pour ceux qui veulent, alors pas tout de suite, mais d'aller voir le replay, ouais. Le débrief.
C'était excellent, avec un très joli casting. Il y avait Asma Mala, il y avait Lucas Perrodin,
Christophe Olmette.
Voilà,
mais il s'est passé tellement de choses depuis ce qu'il voilà, qu'on a encore d'autres choses à raconter.
Et ce qui s'est passé, voilà, le truc le plus important, c'est quand même le retour du compte de Donald Trump qui a été réouvert après quasiment 2 ans de mise à l'écart. C'est un truc de dingue. Et tout ça est né de la volonté d'Elon Musk de proposer carrément un sondage. Il s'est dit, ben voilà, et on va demander à la communauté de Twitter.
Non, pas la communauté, le peuple. Parce qu'il dit, le peuple a voté. Le peuple a voté. Donc le peuple est sur Twitter. Voilà,
donc on raconte l'histoire. Il propose ce sondage. Est-ce que vous voulez que Trump revienne? Oui, non. Il y a eu des dizaines de millions de votes. Ça a été monstrueux.
Bon, ça voilà. S'est joué de près.
Oui. Ça s'est joué de 48-52, je crois, hein, à peu près, le sondage. Et comme il y a eu 52% de pour, eh bien, il appuie sur le bouton et le compte de Trump est revenu. C'est ça.
Mais Trump n'a toujours pas appuyé sur le bouton, lui, par contre.
Non.
Alors, on ne l'a pas encore vu tweeter.
Et quand on creuse, On comprend pourquoi il n'a pas appuyé sur le bouton, visiblement, Damien.
Parce qu'apparemment, il est sous contrat avec un autre réseau social. Et Trump, c'est le business avant tout. Donc, on aime respecter les contrats, normalement. Et puis, quand on aime faire des frasques aussi, on aime le faire devant un public un peu conquis et un peu faire aussi savourer les gens, faire saliver les gens sur le retour. Peut-être qu'il va faire une grande annonce et qu'il va en profiter pour revenir enfin sur Twitter. On a l'habitude de le voir faire des grands feux d'artifice. Pourquoi pas cette fois-ci aussi ?
Parce que, en fait, c'est intéressant, on creuse un petit peu le deal qu'il a avec Truth Social, qui est le réseau social qu'il avait créé suite à son bannissement en fait, de Twitter. Et c'est intéressant parce que dans le contrat, il est stipulé qu'il doit réagir en premier sur Truth Social avant d'aller expliquer ce qu'il veut sur d'autres réseaux.
Il fera des photos, on dit tous, ce qu'il fera, c'est qu'il fera des photos de ses tweets sur Truth Social et de ses messages de Truth Social et qu'il les postera sur Twitter. C'est peut-être un peu ça.
Devrait d'ailleurs retweeter ses posts, ça irait plus vite.
C'est dingue parce qu'on se rend compte que mine de rien, il y avait un deal financier dans tout ça et qu'il est obligé, tout Trump qu'il est, de respecter les engagements qu'il avait signés. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas grand-chose et d'après ce que j'ai compris, il est obligé d'attendre 6 heures avant la publication d'un post sur Truth Social pour le poster sur Twitter.
Oui. Donc, c'est ce qu'on va attendre. Et puis, mais je croyais que pour revenir sur toute l'histoire Twitter, c'est Christophe Hennet qui disait très bien l'autre jour. Il disait qu'il est senior, qui vient ici régulièrement chez Apex Partner. Disait quand on a vu arriver, on a connu Twitter Elon Musk saison 1. Et c'est vrai que quand Elon Musk est arrivé avec le lavabo, tout le monde s'est dit qu'est-ce qu'il va faire là. Et c'était typiquement ces fins de série où on se dit voilà, on a une scène qui arrive, on se dit qu'est-ce qui va se passer.
Le cliffhanger.
Et là, ça y est, le cliffhanger. Et là, on est passé à la saison 2. Et là, la saison 2, elle continue d'être intéressante. Mais alors, c'est de l'interne, c'est de l'externe. C'est de l'interne avec, on a parlé de tous ces licenciements, puis les gens qui veulent partir maintenant. On connaît ça même en France, que Damien Vielle, le patron de.
Alors, c'est pas, il a annoncé hier.
Est-ce qu'il est quitté? Est-ce qu'il a été débarqué? En tout cas, il n'est plus à la tête de Twitter.
Question, qu'est-ce qui va rester de Twitter France? Parce que si on continue comme ça, aujourd'hui, Twitter France, c'est plusieurs centaines de salariés. Elon Musk arrive à ses fins, il resterait pratiquement plus personne en France.
Il y a ça, et puis il y a l'externe aussi, c'est qu'on commence à voir les méthodes de management d'Elon Musk. Est-ce que les gens qui sont des fans de Tesla vont adhérer? Enfin voilà, il y a plein de choses là qui sont en train de se mettre en place, de se dérouler un peu sous nos yeux. En plus, on le vit vraiment en direct, on voit les tweets arriver, etc. Donc c'est vraiment une.
Et est-ce qu'on sait quels sont les effectifs de Twitter aujourd'hui? Parce que ils étaient quoi, 7500 à la base? La moitié a été licenciée du jour au lendemain.
Certains sont revenus.
Ils ne sont pas encore tous virés. C'est-à-dire qu'ils ont quand même 3 mois. Ils seront virés. Ça dépend des gens. Mais soit le 1er janvier, soit le 1er février. Donc pour l'instant, ils sont encore actifs. On peut leur demander de revenir. Contractuellement, ils peuvent revenir au bureau et travailler, même s'ils savent qu'ils sont virés.
Il a quand même envoyé un message disant... ceux qui veulent travailler très dur peuvent rester et le reste, ils ont 3 mois de severance, mais ils sont invités à partir. Tout ça, c'est dans une logique aussi de réduction de coûts. Il estime que la plateforme peut fonctionner très bien sans autant d'effectifs. Est-ce que c'est la vérité? On va bien voir.
Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on sent que ça a été taillé un peu à la serpe. On a des petits exemples qui ressortent de temps en temps. On a le responsable de l'accès des badges qui a été rappelé l'après-midi parce qu'on lui dit en fait, on t'a viré.
En plus,
il a pas dû faire de zèle. Il a dû fermer son bureau et puis même on lui a fermé sa messagerie. Donc on a besoin de toi. Et on sent que, et en discutant l'autre jour avec certains, alors pas des développeurs de Twitter, mais qui connaissent des développeurs de Twitter, souvent, on se disait tiens, on va couper la tête des chefs de projet. Et puis on fera monter un gars de l'équipe de développement. Mais souvent, dans les équipes de dev, le chef de projet, c'est un peu lui qui a l'architecture en tête, enfin qui a un peu et les autres exécutent. Et du coup, il y a des gars qui se sont retrouvés un peu sans leur tête pensante, donc un peu perdus. Donc c'est pour ça que comme il a pris très vite la tête de Twitter, mais c'est pas quelque chose qui a été très structurant, en disant tiens, on a trop de gens en marketing, on a trop de gens. La moitié.
Je pense qu'Elon Musk, il a envie d'insuffler sa culture de Tesla, de SpaceX, la culture qu'il a à chaque fois dans ses entreprises, et qu'il estime que ce n'est pas le cas chez Twitter, et du coup, un grand coup de massue pour ensuite reprendre à zéro. Il y a une logique de réduction de coûts, il y a une logique de rentabilité qu'il voudrait chercher. 90% des revenus de Twitter sont via la publicité. Les revenus.
Il paraît qu'il y a une hémorragie d'annonceurs.
Il y a une hémorragie d'annonceurs, General Motors, des acteurs de l'agroalimentaire qui se sont retirés après ces annonces de liberté d'expression et que Trump et Kanye.
Ils ont peur d'être associés avec de mauvais sujets, ils ont peur des bad buzz permanents, ils naviguent un peu à vue, donc le problème c'est qu'ils ne vont pas budgéter quelque chose dans lequel ils n'ont absolument aucun retour sur investissement possible. Mais vraiment, c'est une logique économique qui l'emporte.
Je ne sais pas à quel point ça fait peur à Musk, dans le sens où lui, il pense sincèrement que c'est un business qui peut fonctionner avec des licences.
La question, c'est est-ce que Twitter va rester un réseau recommandable parce que
c'est quoi l'alternative finalement?
Il y en a pas.
Il y en a pas.
Ouais, parce qu'on parle de Mastodon, mais voilà, pour ceux qui ont testé Mastodon.
C'est comme les gens quand même qui est bien. Chouche social, c'est bien.
Oui, pour une petite catégorie de la population quand même.
Voilà, on va avoir des catégories segmentées de la population qui vont rester cantonnées. Entre eux, c'est
pareil pour Mastodon. Enfin, il suffit de faire un petit tour sur Mastodon. Oui. C'est extrêmement décentralisé. C'est pas du tout le même usage que Twitter. Le modèle économique est assez faible.
Chacun a monté un peu son, à la fois être suivi, à ses followers, à les personnes que l'on suit. Donc, faudrait recréer tout ça. Enfin, faut retrouver les bonnes personnes.
C'est comme pour WhatsApp. Vous aviez un groupe familial qui était sur WhatsApp. Vous n'allez pas passer sur Telegram au Signal si ces gens-là n'y sont pas, tout simplement. Donc, c'est une question de communauté. C'est à l'époque, on a dit que ça va être l'exode des gens de WhatsApp vers les autres messageries alternatives. C'est pas du tout le cas.
Non, ce qu'il faut espérer, c'est que. Alors, il l'a dit, Steve Jobs a dit. Elon Musk a dit. Parce que j'avais Steve Jobs sous les yeux, parce que c'était pour parler de Theranos. C'est pour ça
on en parlera après.
Il a dit même. Il va nommer un DG, un PDG. Alors, que ce sera pas un poste facile, mais bon.
Un siège éjectable, en tout cas.
Un sacré siège éjectable. Enfin, il a des PDG. Il a des DG chez SpaceX, il a des DG chez Tesla et chez Neuralink, donc il va en nommer un là. Mais par contre, il faut qu'il aille assez vite quand même dans la partie structuration, parce que on le disait à l'instant, les annonceurs s'en vont. Alors heureusement, les gens continuent à tweeter, on voit l'activité, elle continue à être assez.
Et le cours en bourse reste, enfin, il a augmenté de $34 à, il est à combien? Il doit être à 54 dollars aujourd'hui. Il n'a pas été touché, donc visiblement. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a remplacé Jack Dorsey avec Parag Agrawal sous prétexte que Jack ne pouvait pas faire son job chez Square et chez Twitter. On l'a remplacé par Parag et voilà ce qui se passe. C'est un serial entrepreneur qui reprend. Donc je suis très, très curieuse de voir qui sera le DG qui va confier les clés de Twitter.
Il a intérêt à travailler 80 heures par semaine, le gars, hein, au minimum.
Plus 120 heures et dormir au bureau.
Et voilà, c'est ça. Bureau, bien sûr. Messieurs, dames, on revient dans un instant. Je crois qu'on a fait le tour concernant Twitter. On va s'intéresser à FTX et Theranos aussi. Dans une minute, c'est le débrief de l'ActuTech jusqu'à 21h40 sur BFM Business dans Tech & Co. A tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà le retour de Tech & Co. Il est 21h15 en ce lundi soir. Merci d'être avec nous à la radio, à la télé. On est en direct, bien sûr, jusqu'à 22h. Les podcasts et les replays qui vous attendent après, bien sûr, sur tous les écrans. Avec, pour ce débrief de l'ActuTech, Zoé Moll, donc, associé chez Balderton Capital, Frédéric Simotel et Damien Licata Caruso, qui est journaliste tech au Parisien et qu'on est ravis d'accueillir ce soir. Dans l'actu, il y a Theranos, donc, avec notre fameuse Elizabeth Holmes. C'est un sacré mystère, cette histoire-là, incroyable, quand on prend un peu de recul, se dire que cette femme qui était portée comme ça par toute l'intelligentsia de la tech il y a quoi, encore 10 ans, parce qu'elle... Ton micro.
Intoxiquée par sa célébrité, a dit la juge.
Intoxiquée par sa célébrité, voilà. Qui avait la chance de pouvoir dîner avec les plus grandes personnalités du monde, des investisseurs aussi de renom. Et elle a réussi à convaincre tous ces gens-là qu'avec une simple goutte de sang, on arrivait à avoir des analyses sanguines incroyables. Donc évidemment, tout le monde s'est dit, mais c'est un truc génial. Elle a mis au point des appareils qui servaient à rien. Tu en parlais tout à l'heure. Évidemment, tout ça, c'était du fake, c'était complètement bidon. Tout ça est passé évidemment sous la moulinette de la justice et le résultat est tombé ce week-end.
Oui, on pensait qu'elle aurait 20, enfin certains pensaient 20 ans de prison, alors 11 ans et demi de prison, ce qui est beaucoup. Alors elle a quelques jours pour faire appel. Après, certains aimeraient que ce soit commué en une grosse amende, une caution, qu'elle soit emprisonnée entre guillemets à domicile.
C'est quand même violent, 11 ans et demi.
Souvent, c'est le juge qui dit ça, elle paraît décente, réfléchie. pleine de compassion. Mais quand même, de l'autre côté, et puis il n'y a pas eu d'enrichissement personnel en tant que tel. D'un autre côté, voilà, il y a les procureurs qui disent, attendez, c'est une boîte, elle a levé près de 1000 millions de dollars. Sa boîte a été valorisée 9 milliards. Elle a quand même mis un Rupert Murdoch, le patron de Wells Fargo, à eux deux, 120 millions. Eux, ils ont perdu 120 millions de dollars. Il y a eu plein d'actionnaires qui ont perdu. Et puis, elle a menti. Elle a fait croire qu'elle allait signer avec le gouvernement américain, avec l'armée américaine. Elle a fait croire que les tests fonctionnaient. Ben voilà, c'est tout. C'est quand même une grosse escroquerie.
Oui, une grosse supercherie.
Donc, alors, certes, elle est enceinte de son deuxième enfant. Elle est charmante. On regarde le documentaire sur Netflix qu'on conseille, hein, qui est pas trop mal fait.
C'est même plus qu'un documentaire, c'est une série.
C'est pas une bandit, quoi. Mais quand même, il y a des escrocs qui sont en prison. Ben là, c'est une escroquerie. Donc après, voir comment fonctionne la justice américaine et comment commuer tout ça. Mais oui, c'est une escroquerie.
Voilà, c'est sur Disney+, hein, cette série.
Disney+.
Exactement, que je vous conseille, parce que c'est vraiment excellent. Zoé, qu'est-ce que j'imagine que tu as suivi cette histoire incroyable de Theranos. C'est fou quand même.
C'est complètement
que des investisseurs
dingue.
Et puissent comme ça tomber dans le panneau.
Alors oui, il y a eu des promesses qui ont été faites qui n'ont pas été tenues. Son produit n'a jamais tenu la route. Ça date un petit peu, hein, cette histoire. Moi, c'est un peu lointain, mais c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, on a le devoir envers ses investisseurs, parce qu'un fonds de VC, on sait comment ça fonctionne. Le fonds de VC a ses investisseurs, ce qu'on appelle des LPs, et donc on a un devoir envers les LPs. C'est pas notre argent qu'on investit. C'est un devoir de due diligence, d'analyse. On regarde surtout en santé, dans le secteur de la healthcare. C'est important de tester le produit, parler à des clients. Ou à des patients dans ce cas-ci, et puis parler à des experts pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Dans le cas d'Elizabeth Holmes, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'un crime, comme les Américains l'appellent, un crime de col blanc, résulte en une peine en prison, et encore plus au-delà de 10 ans. C'est extrêmement rare que ça arrive, ce genre de choses.
On a l'impression qu'on envoie un message quand même à toute la communauté tech,
en disant
c'est un avertissement.
Maintenant,
attention, les gars.
Ça va être un peu la norme. Si vous êtes pris à tricher, à monter des plans financiers comme ça douteux, ou vous engagez une partie de l'économie américaine, parce que derrière il y a des milliardaires, il y a des gens qui auraient investi peut-être dans d'autres boîtes, dans des boîtes qui auraient vraiment concrétisé une vraie technologie. C'est à vos risques et périls, vous allez le payer très cher, peu importe d'où vous venez, peu importe si vous avez un profil très, très lisse, très propre, vous allez le payer très très cher.
J'imagine que tu as suivi cette histoire au Parisien.
Ah oui, ça commence, oui, on a commencé à voir le poteau rose en 2015 déjà, donc ça commence à dater un peu. C'est vrai que la justice américaine a pris le temps d'examiner toutes les preuves, de voir un peu comment on pouvait juger une personne qui avait escroqué autant de gens et qui a été aussi protégée par le système. Parce que les investisseurs qui ne l'ont pas dénoncé, peut-être qu'ils le savaient. Et le problème, c'est qu'on marche sur des œufs, là. On se dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, à un moment, savait quelque chose. Mais évidemment, c'est une pyramide de Ponzi, quelque part, vu qu'il y a des gens qui veulent savoir à un moment, qui ont dit, je vais protéger quand même mon investissement initial et je ne vais pas la dénoncer. Mm-hmm. Il y a eu des complicités aussi dans les administrations.
C'est sorti du travail d'un journaliste, hein, de John Carreyrou, qui est un journaliste franco-américain, qui en 2015 sort un article dans le New York Times, qui a Bad Blood. Il en a fait un livre derrière. Et puis derrière, tout s'est enchaîné. Mais c'est vrai que je parlais de Rupert Murdoch, le patron de Wells Fargo. Il y avait Henry Kissinger, Jim Mattis. Il y avait un ancien aussi grand patron de la défense américaine. Enfin voilà, elle avait quand même du monde qui garantissait tout ça. Elle est, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle était reçue dans les plus grandes tables. Ouais. On la voyait, on disait, mais elle est comme
Steve Jobs.
Elle a fait Ford, elle a monté la boîte à 19 ans.
Tu parlais de Steve Jobs, et bien sûr, on disait que c'était la nouvelle Steve Jobs, en quelque sorte. Après, elle avait toujours un uniforme, enfin voilà, elle était...
Après, quand on a creusé un peu, il y a quelqu'un qui a travaillé dans la boîte qui a dit qu'il était suivi par un détective, qu'il a eu peur pour ses jours. Elle a dénoncé aussi, Elizabeth Holmes a dénoncé aussi son compagnon de l'époque, qui était Sonny Balwani, qui était de 20 ans son aîné, qui était son partenaire à la scène comme à la ville. hein, puisque c'était aussi son compagnon. Alors elle l'a accusé, elle a essayé de se décharger un peu en disant, vous savez, c'est lui qui a monté tout le truc et moi j'étais embarqué là-dedans. Mmh. Comme c'était moi la figure médiatique, si je dévoilais tout sombrait. Et puis peut-être qu'on aurait pu réussir parce qu'on voyait les gens de Pfizer. Enfin, on y croyait un peu quand même. Quelque part, elle y a peut-être même cru, elle, un peu inconsciemment. Elle a même accusé son compagnon d'abus sexuel. Enfin voilà, on est tombé parfois un peu dans le sordide. Mais voilà, au bout du compte, les machines ne marchent pas, c'était du mensonge. Des faux serveurs, des faux robots, etc.
Ça ne serait pas la première fois. Il y a plein de startups qui promettent monts et merveilles, lèvent des fonds alors que le produit n'existe pas. Mmh. Ça arrive souvent. Non,
là,
c'est même une voiture.
Elle a levé 945 millions de dollars. Oui. Elle dînait à la Maison Blanche. Elle avait des protecteurs très haut placés.
On y est presque, on va bientôt y arriver, vous allez voir.
Quand tu dis, à la limite, que le produit soit sur une feuille, dessiné sur une feuille, les gars, ils ont les plans, ils ont un programme de vie. Là, elle a faussé des choses. C'est-à-dire, il y avait des faux robots. Elle a piqué des machines. Elle dit, oh, regardez cette machine-là. Et puis, on mettait un voile noir, hop, on faisait le petit machin, on remettait le voile noir. Regardez, toc, voilà les résultats. Alors que tout ça était truqué.
Ça a été bidonné.
Voilà, donc il y avait un vrai trucage.
Non, mais juste, une petite parenthèse. Le premier iPhone que Steve Jobs avait entre les mains, c'était un fake, en fait. Il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas. Et Jobs faisait semblant de nous dire que tout fonctionnait. Donc il y a toujours eu un peu de bluff dans la tech et on peut très bien se dire...
C'est de magie et d'esbrouf, mais là, dans ces montants-là, c'est historique.
Et on est dans la santé en plus.
C'est
très facile à vérifier.
Et je suis persuadé qu'il y a des investisseurs qui devaient dire, bon, ok, elle n'y est pas, mais elle est quand même assez sérieuse, elle va y arriver, en quelque sorte. Sauf qu'au bout d'un moment, elle n'y arrivait pas. Ça a été quand même incroyable, cette histoire-là. On a terminé sur Theranos. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer là? Donc elle peut faire appel.
Elle a une quinzaine de jours pour faire appel. Elle va sans doute faire appel et puis après voir comment. Est-ce que le procureur très dur va après il y a appel, reprocès derrière s'il faut, rejugement. Après s'il y a de la prison, soit elle le fait point final, soit elle paye une caution très chère. Enfin après il y a ces systèmes.
Après elle va pas faire sa sentence dans n'importe quelle prison. Je pense qu'elle va faire sa sentence dans une prison avec des prisonnières. De col blanc.
De col blanc.
Mais bon, c'est quand même 11 ans. Hein.
Ça ferait peut-être pas les 11 ans, mais
bon. Bon comportement.
Ouais.
Ouais, bon.
Et après, elle fera peut-être des travaux d'intérêt généraux. Enfin, voilà.
On verra bien. Parce que là, pour cette histoire, Theranos, c'est encore une fois, on vous invite à regarder si vous êtes abonné à Disney+, cette série qui est vraiment impressionnante. C'est pas un doc finalement, hein. c'est des comédiens qui racontent l'histoire. On a l'impression d'y être.
Je sais plus qui joue le rôle de comédien.
Tu sais quoi
On regardera.
Un mot quand même sur FTX aussi. Hein, ça aussi, c'était quand même une grosse actu de ces derniers jours, avec, vous savez, ce tremblement de terre dans la sphère des cryptos, et après cette faillite de FTX, donc, qui évidemment a mis à mal beaucoup d'acteurs dans le domaine de la crypto-monnaie. Sauf un, il s'agit de Ledger, qui depuis a vu ses ventes exploser, comme quoi le malheur fait le bonheur des autres. On écoute tout de suite Pascal Gauthier, qui est le PDG de Ledger, et qui était l'invité il y a quelques minutes de Good Morning Business. C'était à 18h15 en ce lundi. On l'écoute et on revient juste après.
C'est peut-être la plus grande fraude ou le plus grand crime financier du 21e siècle. On est encore, l'histoire est encore en train de se dérouler. Donc déjà, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais avant tout, c'est une fraude. Avant tout, c'est du vol. Ça vaut zéro parce que finalement, on s'est rendu compte que SBF, donc Sam Bankman-Fried et tous ses acolytes, en fait, se servaient dans la caisse pour se financer eux-mêmes. Ouais. Pas du tout le monde de la crypto-monnaie. Une fois que la SEC américaine, que le régulateur américain approuve FTX, vous voyez bien que on n'est plus du tout dans le monde de la crypto. On est dans le monde classique, en fait, de la banque, de l'institution financière, qui est validée par un régulateur, qui est validé par une législation et qui opère sous cette égide. Alors donc quand ça se passe mal, c'est simplement, en fait, comme Maddox, comme Enron avant, et c'est simplement des malversations financières.
Voilà, Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, l'invité de Good Evening Business. C'était tout à l'heure, donc à 18h15. Damien, incroyable cette histoire de FTX.
Une nouvelle fois, on se pose la question, est-ce que les cryptos vont survivre à une énième crise? Il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que ça remet en cause tout l'écosystème? Ça s'enchaîne, mais le problème, c'est que parfois, il y a un effet domino. Donc, c'est un système, les uns sont liés aux autres. Il y a des gens qui étaient exposés sur le token de FTX qui sont en train de prendre le bouillon en ce moment. Il y en a d'autres qui vont certainement pas survivre à la fois déjà au bear market, qui était une période assez compliquée, mais si en plus on rajoute des fiascos comme celui-là, ça peut remettre en cause le monde des cryptos, mais est-ce que les cryptos vont s'écrouler comme le prédit The Economist? Je ne pense pas. Les cryptos sont encore là pour rester. FTX, ça va peut-être aussi être le moyen de faire un grand ménage. Voilà.
Je crois qu'ils doivent rembourser 3 milliards, en fait, ton micro, Fred.
La preuve, le Bitcoin. Le Bitcoin est tombé, alors, il est retombé sous la barre des 17 000 dollars, il est à 16 000, mais il se maintient, voilà, il n'est pas tombé à 1000 dollars, comme on aurait dit. Donc, voilà, après.
Bon, oui, il était à 60 000 l'année dernière.
Ouais, après, là, le grand risque, c'est quand même. Oui, mais on.
Oui.
Enfin voilà, il aurait pu tomber encore plus bas. Mais après, il faut voir un Binance. Est-ce qu'un Binance peut tenir? Est-ce que
c'est un peu le problème aussi, c'est que on pouvait penser que le bear market, il y aurait une consolidation. Et là, en fait, on se retrouve avec quelques acteurs qui deviennent incontournables et il y aura quasiment à un moment, on va arriver à une situation de monopole, qui est quand même pas la philosophie des cryptos. On est sur un écosystème décentralisé.
Bien sûr.
Et là, on va se retrouver avec une seule plateforme qui va donner le rythme. Et imposer aussi, et ben, il faut penser aussi à régulation. On parle de régulation, mais qui va donner le rythme de la régulation? La plateforme qui va survivre.
C'est compliqué, hein, Zoé, hein, cette période. Alors, j'imagine, pour les investisseurs, c'est chaud, quand même.
Oui, c'est chaud. Je pense que personne ne s'y attendait. Tu parlais de consolidation. Le dernier chapitre de l'histoire, avant que ça devienne public, c'était Binance qui était censé racheter FTX. Et en faisant ses due diligence, a dit, en fait...
Non.
En fait, non. Parce que c'est une run on the bank. Un milliard de liquidités contre 9 milliards de redevances. Donc, ça pouvait pas marcher. Après, je crois qu'ils sont en train de tout débroussailler parce qu'il y a pas mal d'entités qui sont connectées à FTX.
Surtout, apparemment, il n'y avait pas de livre comptable.
Ils l'ont pas fait.
Oui, pas dire. Ils ont du mal à localiser, à sécuriser les actifs numériques. Ils n'arrivent pas à les retrouver. Hein. Certains trucs, c'est vraiment perdu. Et tu disais les alertes. Il y en a quand même un, et on va boucler la boucle, et on en parlait jeudi dernier. C'est Elon Musk, hein, parce que SBF, le patron le fondateur de FTX, ex-patron de FTX, il avait dit à Elon Musk, moi je tiens pour Twitter, je t'accompagne, j'y vais à 5 milliards. Et Elon Musk a dit, oula.
Non.
Il a préféré prendre l'argent de Binance. Au moins, il y avait quelques garanties derrière, quelques liquidités.
Voilà, donc ça veut quand même dire qu'il y avait un doute quand même sur tout ça.
Peut-être que la rumeur circulait déjà aussi. Ouais. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient sortis et qui disaient,
c'est pas très mauvais, propre. Fermez la porte.
C'est le moment de sortir les billes. Hein. Oui.
Bon, on revient dans un instant avec Frédéric Zoé et Damien pour encore quelques minutes de débrief de l'ActuTech juste après l'info éco. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business, l'info éco.
21h31 sur BFM Business, l'info éco, c'est avec Nathan Cocampo. Bonsoir Nathan.
Bonsoir. À la une, les nouvelles règles de l'assurance chômage. Une durée d'indemnisation réduite de 25% lorsque le taux de chômage est inférieur à 9% ou qu'il baisse pendant 3 trimestres consécutifs. À l'inverse, lorsque le taux de chômage est supérieur à 9% ou qu'il augmente de 0,8% sur un trimestre, les règles d'indemnisation seront identiques à celles d'aujourd'hui. Il est temps de mettre fin au quoi qu'il en coûte. Voilà l'appel du FMI à la France aujourd'hui. Les milliards dépensés pendant la crise énergétique sont évalués à plus de 2% du PIB. Pas de réduction du déficit en 2023. L'ajustement budgétaire n'est pas prévu avant 2024. Emmanuel Macron reçoit les grands industriels européens lors d'un dîner à l'Élysée. Objectif, les inciter à ne pas délocaliser aux États-Unis. L'exécutif s'inquiète de l'Inflation Reduction Act, le plan américain accusé de provoquer une distorsion de concurrence. Louis Carvignon, PDG de Ford France, sera d'ailleurs sur BFM Business pour parler de ce sujet. 20h demain sur Tech & Co. MSC renonce au rachat d'ITA Airways. Le géant suisse avait fait une offre en janvier conjointement avec Lufthansa. MSC estime que la procédure actuelle ne réunit pas les conditions nécessaires à un tel rachat. De son côté, Lufthansa compte recruter 20 000 salariés. Avec la reprise du trafic aérien, la compagnie allemande a besoin de main-d'œuvre dans 45 métiers, dont des techniciens, pilotes et personnels de cabine, sur ses sites en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Belgique. Et enfin, Carmat a repris les implantations de son cœur artificiel. Elles se feront progressivement en fonction de la reconstitution du stock de prothèses. L'entreprise table sur une production de 500 cœurs artificiels sur l'année qui vient.
Merci beaucoup Nathan. Et direction maintenant la rédaction de Tech & Co avec Julie Rago qui nous a rejoint. Bonsoir, bonsoir Julie.
Bonsoir François.
On va s'intéresser à l'un des articles qui a le plus buzzé en ce lundi soir sur le site de Tech & Co. Évidemment, vous allez sur le site de bfmtv.com/tech&co et vous tombez chez nous. Julie, c'était l'événement donc du week-end sur Internet, le Eleven All-Stars samedi soir. C'est un match de foot opposant la France à l'Espagne qui a battu des records sur Twitch et avec des streamers décidés à entretenir la rivalité franco-espagnole en ligne.
Ouais. Oui, François, le succès de ce Eleven All-Stars s'explique surtout par la confrontation qu'il y a entre la France et l'Espagne depuis plusieurs mois. Cette confrontation, elle a commencé sur League of Legends, le célèbre jeu en ligne, et où il y a les deux pays qui disposent de ligues professionnelles ultra médiatisées et convoitées par les joueurs. C'est un peu les équivalents de la Ligue 1 et de la Liga, si vous voulez, en e-sport. Et puis, cette rivalité, elle s'est accentuée avec la guerre des pixels en avril dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait créer une fresque sur le réseau social Reddit, et ça s'est vite transformé en guerre entre les deux pays, gagnée par la France à coup d'accusations de tricherie et de discussions enflammées sur les réseaux sociaux. La prochaine Pixel War, elle aura lieu que dans 5 ans, mais la guerre, elle continue dans la vraie vie, comme vous l'avez dit, avec ce match de football au stade Jean Bouin à Paris samedi soir, devant 20 000 spectateurs. Résultat final, 1,1 million de téléspectateurs sur Twitch. C'est le record pour une chaîne francophone.
C'est-à-dire qu'il y avait 20 000 spectateurs dans Jean Bouin,
ouais.
Plus d'un million sur Twitch.
C'est un record. Hein. Il y avait déjà eu le record le mois dernier avec le GP Explorer de Squeezie. On en avait longuement parlé. Et puis le score final, pour le côté sportif, c'était 2-0 pour la France. C'est une nouvelle déroute pour les Espagnols, en attendant le possible match retour qui aura lieu en Espagne l'année prochaine, si on veut bien.
Ouais, et si ça se passe bien. Voilà. On aime bien nos amis espagnols, tout ça.
On adore.
Voilà, et de bonnes guerres.
Bien sûr.
C'est plus une compétition qu'une guerre.
Voilà.
Merci beaucoup, Julie.
Merci, François.
À Julie Rago, donc, de la rédaction de Tech & Co. 21h35 et tout de suite, on poursuit notre débrief en ce lundi soir.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà le retour de ce débrief de la Tutech avec ce soir dans Tech & Co sur BFM Business, Zoé Moll, associée chez Balderton Capital, Damien Licata Caruso, journaliste tech au Parisien, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business, bien sûr. Encore une actualité, cette fois-ci positive. On connaît tous Starlink, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Il faut savoir que l'Europe est prête pour proposer une offre d'Internet alternative à Starlink. Et c'est une offre 100% européenne. Fred, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette histoire.
Oui, moi, je regardais OneWeb, donc je pensais que c'était OneWeb associé à Eutelsat qui était cette offre. Puis en fait, non. Elle est défendue par Bruno Le Maire, le gouvernement français, tout ça. Et finalement, non. Donc c'est une offre...
Iris 2.
Iris 2, voilà. Donc c'est Thierry Breton qui la pousse aujourd'hui. Donc investissement de plus de 700 millions d'euros, il me semble. Hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, une constellation, alors qu'il doit répondre. Alors c'est la troisième, si on regarde en Europe, on a Copernicus qui est plutôt la surveillance de la planète, même si les datas, on dit que c'est européen, mais les datas elles vont quand même beaucoup chez les Américains. On a Galileo, notre GPS à nous, et puis on a donc Iris 2 qui va être cette offre de satellites. Alors il y a deux orbites, mais le but c'est d'irriguer à la fois des zones moins denses et puis proposer ça aussi à des industriels ou à des zones de conflit, par exemple. Donc c'est plutôt...
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut voir qu'est-ce qui va se passer avec OneWeb.
Parce que finalement, tout le monde veut son réseau Internet par satellite. La Chine en prévoit d'en lancer un. La Russie aussi. Les États-Unis et maintenant l'Europe. Donc.
C'est très important parce qu'il y a quand même des... Oui, et puis il y a les zones blanches en France qu'on ne pourra toujours pas couvrir. On ne pourra pas tirer la fibre indéfiniment, aller dans des endroits, à un moment, on sera obligé de proposer une alternative. L'alternative, ça sera forcément un équivalent du débit de la 5G qui viendra du ciel, tout simplement. On sera obligé de se connecter avec un satellite et ça coûtera, à un moment ou à un autre, quand on aura trouvé la bonne formule, moins cher. Ou un équivalent de la fibre.
Alors, ça va coûter beaucoup plus que 700 millions, mon cher Fred. Je crois qu'on est...
C'est pour ça que c'était...
6 milliards.
Voilà, je crois qu'il y a un premier chèque de 2,4 milliards.
Ouais, c'est pour ça que je n'étais pas sûr de moi.
En fait, je crois que les investissements... parce que ça me paraissait peu quand même. Parce que pour lancer des satellites comme ça, je crois que l'objectif est d'un objectif de 6 milliards d'euros d'investissement.
6 milliards, dont 2,4 provenant de l'Union européenne. Voilà. Et le reste des États et d'autres entités. Et puis, avec comme objectif qui se fixe, c'est intéressant d'arriver à la compétition avec Starlink d'ici mi-2024. Grandes ambitions.
Ça me paraît un peu optimiste, non, quand même?
C'est jouable, et puis ça repose aussi sur le recours à la nouvelle fusée d'Ariane, qu'on est en train un peu d'oublier, mais Ariane 6, c'est un nouveau projet qui va commencer à décoller à peu près au même horizon, et qui va avoir besoin de lancer des satellites. On va pas pouvoir lancer indéfiniment de gros satellites, ce qu'avait prévu de faire Ariane, c'est de lancer des constellations. Donc, c'est assez raccord avec les projets qui avaient déjà été annoncés il y a un ou deux ans.
Avec tout un tas de cahiers des charges aussi pour faire bosser des start-up françaises, notamment. Je crois que c'est 30% des investissements qui... Alors, pour le coup, là, je suis...
C'est censé irriguer quand même l'écosystème.
Voilà. L'écosystème, et il y a 30% qui doivent vraiment être fléchés vers les start-up françaises. Il y a toute une partie aussi qui l'est peut-être un peu moins dans d'autres constellations sur tous les effets durables, hein, c'est-à-dire de récupérer les déchets, de la façon dont on va être construit les satellites, ce qui, aujourd'hui, est beaucoup moins le cas dans les Starlink, Kuiper de Amazon, où ça passe un peu...
Oui, c'est pas le premier problème d'Elon Musk.
Nous, on l'a mis un peu en avant. Enfin, ce projet-là le met un peu en avant. Mais
Ça veut dire que 30% du budget ira vers des startups qui feront quoi exactement? On sait.
Vers startups européennes.
Des startups européennes.
Voilà. Il faut minimum 30%. Après, si on met 100%, on veut bien. Mais voilà.
Et sur quel type de projet concevoir le satellite? Un satellite biodégradable? Un satellite recyclable?
Ou est-ce que c'est sur la data qui peut être récoltée via les satellites?
Et son exploitation.
Oui.
Écoutez, on n'a pas toutes les réponses.
On n'est pas la définition.
Il faudrait qu'on reçoive Monsieur Iris 2 quand même dans Tech & Co. Il doit bien y avoir un gars qui
écoute,
peut
ça
nous
a...
expliquer.
Ça faisait un moment qu'on parlait de toutes ces constellations et on imaginait. Mais moi, je pensais que le OneWeb. Alors, on sait que Thierry Breton était moyen pour le.
Parce qu'il y avait OneWeb Eutelsat.
Oui, OneWeb avec Eutelsat.
C'est ça. Et donc, c'est pas ce projet-là.
Non, pas du tout.
Incroyable.
Ça va être un concurrent. Donc, wow. C'est ça qui est un peu surprenant.
Oui, c'est un peu surprenant. Bon. Écoutez, alors c'est vrai que je crois que OneWeb, c'était une boîte anglaise. Donc,
oui.
Voilà, il n'y avait pas que l'Europe.
Et qui battait un peu de l'aile.
Battait un peu de l'aile.
Je veux dire, et donc ça avait été... Eutelsat était rentré dans le projet, on avait trouvé ça, que c'était plutôt une bonne idée.
Voilà, on va creuser ce projet d'Internet. Ça me paraît quand même ambitieux, 2024 quand même, alors que rien n'est sorti de terre encore. Là, imaginez que le réseau soit lancé, etc. Quand on voit que Starlink...
Quand on voit combien de temps a pris Galileo...
Après, c'est le retard Galileo. Après, c'est les plus petits satellites. Hein, donc, voilà, en mettre 30 dans une fusée et les balancer assez vite, ça peut aller assez vite. Mais enfin, quand on voit les agendas des décollages et tout ça, c'est quand même.
Les premières Ariane 6, elles sont déjà pleines. Donc, ça sera peut-être sur la troisième ou la quatrième.
Alors, peut-être qu'ils ont préempté des.
Peut-être qu'ils ont pris. Oui, apparemment, il y a un étage qui sera réservé à de plus petits projets. Ça pourrait être celui-là.
Bon, on suivra ça.
J'ai vu un projet de catapulte.
De catapulte.
Véridique, de catapulte. Ils sont en train de tester
depuis
ça.
Depuis le sol.
Comme une catapulte. Et
qui envoie le satellite comme ça dans l'air. Oui.
Et donc, ça pourrait être une start-up, par exemple.
Voilà, typiquement.
Ça sort une start-up.
Tiens, il faudrait que tu testes ça, Fred. Tu t'accroches à la catapulte.
Ah ouais. Cannonball. Ouais.
Tu nous fais 2-3 photos avec ton smartphone, et puis après, tu redescends, tu te débrouilles. Hein,
voilà, c'est ça.
Voilà, essaie de mettre
en parachute sur BFM.
Déjà, la montée, je pense que ça doit être quelque chose. Mais non, Véridique, allez voir ça, catapulte, satellite.
Là encore, on va creuser.
Un système de fronde, ils vont faire tourner quelque chose très vite.
Il faut les recevoir comme
ces gens-là.
Et puis,
ouais. Et
ben voilà. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas, c'était un plaisir. Merci Zoé Moll, donc fraîchement arrivé chez Balderton Capital, Frédéric Simotel et Damien Licata Caruso. À très bientôt, Damien.
Merci.
Si on ne se voit pas d'ici le CES de Las Vegas, très bonne fête de fin d'année.
Merci à vous aussi.
Journaliste tech au Parisien. Et vous restez avec nous. On n'a pas encore terminé ce Tech & Co. Comme chaque lundi, ce sera notre plongée dans Station F. Et on va s'intéresser à la Wine Tech. Écoutez, dans un mois, c'est les fêtes de fin d'année. On essaie quand même d'être raccord. Allez, à tout de suite.
Tech & Co. Les pépites de Station F.
Et oui, pour terminer notre Tech & Co ce lundi soir, deux pépites de Station F que je vous invite à découvrir maintenant. On va parler de Wine Tech. Vous le savez, le vin qui aujourd'hui goûte à la technologie. Vous le savez, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Nicolas Daligny est avec nous. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Co-fondateur et PDG de Vini Daily, qui est une appli qui aide à choisir son vin dans les magasins. Vous allez nous expliquer comment ça marche.
Exactement.
dans un instant. Et puis, on accueille aussi Cyril Cohen. Bonsoir, Cyril.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de Divin. Alors, vous préparez, en fait, à cette nouvelle législation. Et vous travaillez sur la traçabilité du vin, parce que demain, on sera obligé, enfin, les fabricants de vin seront obligés de rajouter des informations très, très, très précises.
Absolument.
Sur les étiquettes. Vous allez nous expliquer ce qui va se passer et quand ça va se passer aussi. Ça va être intéressant. Mais peut-être commencer par vous, Nicolas. Présentez-nous Vini Daily.
Alors, Vini Daily, c'est tout simplement une application qui permet à tout le monde de choisir le vin qui lui convient. En fait, 9 personnes sur 10 ont du mal à choisir leur vin de manière régulière. Et donc, on a créé une application qui permet, à partir d'une photo d'un rayon de supermarché, d'avoir les 3 meilleures bouteilles en fonction de ses critères, donc ses goûts, son budget, éventuellement un plat. Et on retourne tout simplement les 3 recommandations les plus pertinentes. Et on ne s'arrête pas là, puisqu'on vient de sortir donc aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, une marketplace qui permet d'acheter du vin avec des recommandations personnalisées directement sur l'application.
Alors, comment ça marche, expliquez-nous.
Et ben en fait, on analyse les goûts à travers 4 questions du quotidien. On va vous demander comment vous buvez votre café, votre thé.
Donc je m'inscris, c'est une appli.
C'est exactement, alors, exactement. Okay. Et ensuite, une fois que vous êtes dans le supermarché, vous allez rentrer.
Qu'est-ce que vous posez comme question? Parce que c'est pas facile d'exprimer ses goûts dans le domaine du vin.
Et ben justement, c'est pour ça qu'on pose des questions qui ont rien à voir avec le monde du vin. On va vous demander comment est-ce que vous buvez votre café, votre thé, ce genre de choses, et ça va nous permettre d'avoir des indicateurs qui vont nous permettre
sur
de savoir
notre sensibilité des papilles gustatives.
Exactement. Et donc après, ça nous permet de savoir quels sont les types de vins que vous allez apprécier ou non. Et à partir de ça, on va vous recommander des vins qui vous conviennent avec donc ce profil gustatif, votre budget et également un plat si vous en avez un. Donc, voilà.
C'est vrai que je peux prendre en photo le rayon vin de mon supermarché et simplement avec cette photo, vous allez me conseiller des vins qui sont disponibles.
Exactement. En fait, c'est grâce à la photo qu'on a exactement les vins qui sont disponibles en face de vous et qu'on fait une recommandation toujours pertinente.
Mais comment ça, quand je prends une photo du rayon, vous ne voyez pas les bouteilles?
Eh ben, en fait, l'œil humain a parfois du mal sur une photo avec 120 bouteilles, mais l'intelligence artificielle a beaucoup moins de mal que nous. Donc,
et vous allez détecter les étiquettes et savoir de quel vin il s'agit.
Exactement, exactement.
Waouh. Et alors après, comment ça se passe? Vous me dites, ben tiens, troisième bouteille à droite sur le rayon, vous nous donnez le nom du vin et je vais le prendre?
Alors mieux que ça, puisqu'en fait c'est vraiment difficile, comme vous le dites, de choisir la bouteille une fois qu'on l'a indiqué. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie la photo qui a été prise, avec les bouteilles entourées, tout simplement, et la description juste en dessous. Et vous n'avez plus qu'à prendre la bouteille.
C'est top ça. Vous avez fait, vous faites une levée de fonds?
Alors on a déjà levé des fonds.
650 000 euros, c'est ça?
C'est ça, exactement. Auprès de Business Angel français et étranger, également auprès de la BPI et du Crédit Mutuel, qui est la banque qui nous accompagne.
D'accord. Et vous nous dites que ça bouge dans le domaine de la wine tech.
Beaucoup.
Et qu'on commence à avoir des levées de fonds sympas.
Exactement, exactement. Bah, on fait partie de la Wine Tech, qui est une association tous les deux, et qui est très dynamique avec plusieurs levées de fonds. On salue nos amis des grappes, notamment de Matcha Wine, toutes ces levées de fonds qui s'enchaînent et qui sont très positives pour le moment.
Quel est votre modèle économique chez Vini Daily?
Et bah justement, c'est grâce à la marketplace qu'on vient de sortir et aux commandes qui vont sûrement arriver pour les fêtes de fin d'année qu'on va pouvoir faire un petit peu de chiffre d'affaires, on l'espère. Et justement, on peut prendre tout simplement une commission sur les ventes qui sont générées, avec des recommandations qui sont toujours personnalisées. Hein, on garde ce profil gustatif,
bien sûr,
qui nous aide à présélectionner les bouteilles.
En fait, exactement. De votre appli.
Exactement.
Et là, il va falloir que vous vous jetiez à corps perdu dans les foires aux vins. Enfin, il y a un business incroyable à faire, non?
Ouais.
Supermarché, les choses comme ça.
Exactement.
Bah, je retrouve devant des centaines de bouteilles, on ne sait pas quoi choisir. Il y a des médailles, il y a des promos, etc.
C'est compliqué. Ça résume super bien la problématique. 9 personnes sur 10 sont perdues face à un rayon de vin.
Ouais, donc voilà. Ça s'appelle Vini Daily, tiens, à tester. Vous êtes sur iOS et Android?
Les deux, exactement.
Et bien voilà. Vini Daily, Divin donc. Allez,
tout à fait.
C'est à vous. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites chez Divin. Et expliquez-nous surtout ce qui va se passer en termes de traçabilité du vin.
Exactement. Dans un an, donc, il y a une nouvelle réglementation européenne qui rentre en vigueur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va y avoir de nouvelles informations. La première, c'est les données nutritionnelles. Donc, combien de calories, combien de sucre par bouteille. En fait, quand vous ouvrez votre frigo aujourd'hui, il y a ça sur absolument tous les aliments qui sont dans votre frigo, sauf le vin. Ça fait 40 ans que ça dure. Et donc, aujourd'hui, on a une date. C'est le 8 décembre 2023. Ça va changer.
C'est-à-dire que le 8 décembre 2023, voilà. Sur mon étiquette, sur l'étiquette des bouteilles de vin, j'aurai des informations nutritionnelles.
Exactement.
Comme et la liste des ingrédients. Sur un paquet de biscuits.
Absolument. Et la liste des ingrédients, donc raisins, sulfites et autres allergènes.
Sulfites.
Exactement. Sulfite qui est naturel, qui est un allergène naturel dans le vin. Voilà. Et l'idée, c'est que nous, on veut accompagner les producteurs là-dessus. Parce qu'on peut digitaliser ces informations et retrouver ces informations grâce à un QR code. Et ça peut paraître simple, mais nous, c'est comme ça que l'idée nous est venue avec Divin. C'est qu'on parlait avec des producteurs, parce qu'on est de grands amateurs de vin. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément quelque chose d'évident et de facile, même de créer un QR code et de rendre ça simple pour le consommateur et pour le producteur. Et l'idée, c'est qu'on a créé une application producteur qui permet de rentrer toutes ces informations très simplement en quelques clics et de créer un QR code. Et pour le consommateur, de venir flasher ce QR code, avoir toutes ces informations légales. Et avec Divin, on s'est dit, ouais, mais maintenant, toutes les bouteilles vont avoir un QR code, finalement, parce qu'on ne pourra plus avoir un QR code pour renvoyer vers son Twitter, vers son Instagram. En fait, on n'aura qu'un QR code pour ses données nutritionnelles.
Bien sûr.
Parce qu'on a échangé avec pas mal de producteurs, au final,
surtout
tout le monde
si
va venir là-dessus.
Obligatoire.
Exactement. Et donc, du coup, on s'est dit avec Divin, ouais, mais il faudrait que ce QR code, il aille plus loin. Et donc, du coup, maintenant, on flash la bouteille, on peut avoir ses informations nutritionnelles, mais si on décide de l'ajouter dans l'application, et bien en fait, c'est une application Divin qui est créée avec le producteur. Et donc, on a accès, par exemple, à son savoir-faire, son histoire. On sait qui est derrière cette bouteille. Et en fait, on veut recréer un lien producteur-consommateur.
C'est important, l'histoire aussi, derrière.
Ouais, c'est hyper important.
C'est super important.
Et là, c'est le Beaujolais nouveau. Je ne sais pas si vous avez la chance d'en boire une. Mais l'idée, c'est de se dire, vous prenez cette bouteille. Et bien, en fait, demain, avec Divin, vous pouvez échanger directement avec le producteur. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, quand nous, on a échangé avec des dizaines et dizaines de producteurs, ils nous disaient, ouais, mais nous, il n'y a plus de lien avec le consommateur. On ne sait même plus à qui on vend nos bouteilles. Et nous, au final, avec Divin, c'est ce qu'on vient défendre aussi aujourd'hui. Voilà.
Et comme les viticulteurs font ce métier avec passion,
ils
seront ravis d'avoir des retours.
Exactement. C'est
des consommateurs, en quelque
c'est
sorte.
C'est des passionnés. Exactement.
Comme en revanche, il faut essayer d'avoir des retours au bout du premier verre, pas du dixième. Parce que ça risque de donner après.
Ça ne garantit rien pour l'instant.
Voilà, c'est ça. Ça va être compliqué pour les viticulteurs d'analyser le profil nutritionnel de leur vin.
Non, absolument pas, parce qu'au final, ils ont ces données depuis des années qu'ils n'exploitent pas.
Ah, ils l'ont déjà, en fait.
Ils les ont déjà, ouais. Les viticulteurs sont très équipés, sont très digitalisés, finalement. Ils ont des machines qui scannent absolument tout, mais l'idée, c'est qu'on dit, on va le mettre, faut le mettre à profit,
bien
ça
sûr.
Faut le partager avec les consommateurs.
Il n'y a rien à cacher, là, dans ce cas.
Mais il n'y a rien à cacher, au final, les producteurs, rien à cacher. Et justement, l'idée, c'est de dire, le consommateur, aujourd'hui, 80% des consommateurs demandent plus de transparence sur ce qu'ils consomment, ce qui est normal. Et l'idée, c'est qu'on donne les clés aux producteurs de le faire. Voilà.
Très bien. Faut vous discuter entre vous, parce que.
Ça nous arrive, hein.
Ça nous arrive.
Vous attendez à boire Divin sur Vinidelli à terme dans un an, ça aura du sens.
Exactement.
Forcément.
Plus de données et un lien avec le vigneron, c'est forcément ça. Voilà.
Et comme vous êtes voisins à Station F, j'imagine.
C'est vrai qu'on est juste voisins, ouais. À quelques mètres. Aussi. Exactement.
Merci à tous les deux d'être passés par le plateau de Tech & Co.
Merci.
Merci beaucoup.
Nicolas Dallini, donc cofondateur et PDG de Vinidelli, et Cyril Cohen, cofondateur donc de Divin. Voilà, merci de nous avoir suivis en ce lundi soir. J'étais ravi de vous retrouver. On sera là demain mardi, avec un invité exceptionnel, puisque demain soir, je reçois Louis Carvignon à 20h10, qui est le PDG de Ford France. Et on s'intéressera, entre autres, à la stratégie électrique de ce grand constructeur historique. Avec, vous allez voir, une accélération, évidemment, sur l'électrique. On parlera aussi de voitures autonomes, de batteries, etc., etc. Donc, invité exceptionnel demain soir, dès 20h10. Très bonne soirée. Tech & Co, le podcast et le replay de cette émission qui vous attendent d'ores et déjà. Très bonne soirée et à demain.